Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal+. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Je vous souhaite un bon moment. Bienvenue dans Un Bon Moment, une émission présentée par... Pourquoi
toi,
je présenté par, mais je suis le premier plan de
toi.
Cette émission, donc c'est moi qui la présente.
C'est fou, hein.
Et puis c'est dans le générique.
Dans le générique.
Bah oui, il y a marqué écrit... présenté par.
Mais les gens sont pas attentifs, peut-être.
Oui, c'est vrai. Et le son
danse.
Est sur Spotify d'ailleurs depuis. Le son cartonne d'ailleurs sur Spotify.
C'est quoi le nom du groupe déjà?
Puzzle Bubble.
Puzzle
Romain Sego qui fait les animations, qui a fait l'animation dans Bref. Bref, je suis né et bref, je suis en dépression. Je suis toujours accompagné de mon pote.
T'es en dépression?
Non. Bref, je suis en dépression. Là, c'est le personnage qui est en dépression.
Il le fait bien.
Moi, ça va, je sors de ma dépression. Ça fait 15 ans que je suis plus en dépression, donc tout va bien, tout va mieux. Bruno Muscu, alias Navo, comment ça va?
Eh ben, moyen.
Ah.
T'es en dépression.
Moi, je suis pas au top.
C'est à cause de nous?
J'ai besoin de parler. Non, je...
D'accord.
Bon, on va pouvoir en parler.
Ouais, ok.
Alors, si je peux me permettre, est-ce que tu peux décaler ton micro? Parce que là, tu t'es un peu
décalé. Je fais tout mal, c'est ça le... J'ai encore ça aussi, je l'ai raté.
Il
n'y a pas que ma vie alors, même ça.
Bien tenté.
Mais tu m'as dit que c'était comme ça, il faut le mettre comment alors?
Ouais, mais faut que en fait, il faut qu'il soit un peu axé sur ta gauche de ta bouche.
Je fais comme
voilà.
Ça. Comme ça, là, t'es bien.
C'est ça, exactement. Top. Et aujourd'hui, on est accompagné de Eleanor Coste et François Descraques. Auto-applause. Auto-congratulation. Comment ça va, les amis?
D'accord, ok.
Chacun pour sa gueule.
Comment
alors,
ça va, les
amis? Plus fort alors.
Est-ce que c'est pas la première émission depuis ce qui s'est passé, tu sais, les lives Instagram, la session de live Instagram
qu'il y a
eu?
Ah putain, ouais, c'est vrai.
C'est la première émission
c'est vrai pour dans la vraie vie, ouais.
Incroyable. Et toi aussi
Moi, je l'ai même invité, moi, nulle part. Hein, donc, bon,
mais c'est la première
c'est
émission
fois que je sors de chez moi, déjà, donc...
C'est pas vrai, on a fait plein de projets, on va en parler tout à l'heure et tout. Moi, je suis super content de recevoir des réalisateurs, des réalisatrices. On va parler, j'ai envie qu'on parle un peu de la créativité, là, maintenant que vous êtes là. On vous connaît, vous avez fait un vrai duo dans Le Visiteur du Futur. François, tu réalisais, Eleanor, tu jouais dedans.
Attends, c'est pas lui, c'est François,
non,
c'est Raphaël.
Non, je confonds, c'est pas le suricate, c'est l'autre.
C'est pas le suricate, lui?
C'est l'autre.
Changez vos fiches, les gars. Faut tout
recommencer. Lui, c'est le héros du Visiteur du Futur avec la mèche, qui dit « Ah bon, faut pas que je jette ça dans la poubelle ?»
Presque, mais...
C'est ça, non?
On va dire que oui.
On va dire oui.
Raphaël, c'est lequel?
Mais je sais pas.
Attends, toi, ta sœur, elle s'appelle comment?
Bah, elle s'appelle Raphaël.
Ah ouais. Putain, mais ça.
Mais elle est pas dans le Visiteur.
Bah ouais, mais en même temps,
c'est ta sœur Raphaël.
Mais c'est vrai qu'elle ressemble à Raphaël aussi.
Mais c'est ta sœur Raphaël ou c'est
ouais,
ton frère?
Ouais, Raphaël, c'est ma sœur.
Alors, tu l'appelles Raph ou pas ta sœur?
Ouais, Raph.
Ah merde.
Bouchon, Raph.
Bon bah, appelle-la Bouchon maintenant.
Ouais, d'accord. Toi, tu l'appelles Raph.
Non, mais c'est trop compliqué. Moi, j'annule cette émission.
À quel moment on passe de Raph à Bouchon?
J'en ai aucune idée, mais
c'est vrai. Parce qu'il y a Raph, Raphouche, Bouche, Bouchon.
C'est vrai que le chemin est long.
Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas.
C'était il y a longtemps.
Ouais, il y a longtemps.
Ça doit venir des parents, peut-être.
Non.
Bouchon?
C'est pas son deuxième prénom.
Rien ne vient des parents, vraiment. À part l'hystérie et la dépression.
Et les gènes.
C'est genre depuis l'époque des Wishibo et des Toupaves.
Putain, comment tu sais ça?
C'est ta premier choc mental.
Choc mental.
Ah, directement en entrant.
Non, mais tu sais, d'entendre ce nom-là.
Tes sourcils.
Ah ouais, ça a fait un
peu. On va revoir ça au ralenti, c'est la croix.
Attends, tu sais, comment tu sais ça?
Non, mais d'entendre ce ça ailleurs que, tu vois, c'est que mon père qui disait ça, quoi.
C'est trop mignon.
Il est content de son choc mental. Donc ça, c'est un choc mental. Alors, qu'est-ce qu'un choc mental?
C'est quand on te dit un truc que je suis pas censé dire. Une information que je suis pas censé savoir.
Ah, d'accord.
Et que j'ai... et c'est vraiment ce que t'as regardé.
C'est vrai, il y a vraiment une... Ah, un bug!
T'as eu un bug, ton cerveau dit...
De recherche, attends, comment... Ceci dit, j'en ai parlé dans une BD, donc ça pouvait être ça.
Voilà, c'est que tu l'as pas lu sa BD maintenant.
Bon, comment ça va d'abord? Comment il va ce monde d'après?
Ça va, hein, il est plus propre. Il sent bon la lavande, grâce à toi.
C'est vrai
qu'ici ça va.
On a déjà dit le droit alcoolique à lavande.
Mais sinon, ça va. On a fait un tournage récemment.
On a fait un petit
et
tournage.
C'était notre premier tournage en mode Covid.
Exactement.
Et ça s'est très bien passé.
Bah ouais.
Vous voilà. avez fait le, vous êtes fait tester dans le nez.
Attendez
et tout,
deux semaines quand même. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout bien passé. Vous allez découvrir que
ouais,
vous êtes le cluster.
Ouais. Grosse mesure de sécurité.
Oui,
tournage.
Vous avez fait le. Ah,
moi, j'ai pas fait le test, mais je suis confiné vraiment depuis très longtemps. Mais je vais le faire de toute façon. Je vais le faire la semaine prochaine, je pense. Parce que je vais continuer les tournages.
Ouais.
Et on était masqués tout le temps. Quoi.
Tout le temps.
Moi, il y a des gens que j'ai pas reconnus.
Ouais, hein. Vous avez vraiment respecté.
Ah,
le
toute
truc,
l'équipe était masquée. Personne ne fumait.
Mais je disais, c'est que il y a des gens que j'ai vus que avec des masques. Et à un moment, ils ont enlevé le masque à la fin. J'ai fait genre, ah, mais c'est lui. Mais vraiment, j'ai eu un bug. Genre, je les avais toujours reconnus de là. Quoi.
Papa.
T'étais là depuis le début.
Depuis le temps que je te cherche.
Non, on a fait un petit tournage ensemble. Mm. Mise à jour. C'est un programme sur lequel on travaille. C'est un sketch show. Donc, c'est un sketch show sur les jeux vidéo qui, j'espère, va le voir le jour. Parce que c'est un stade de pilote. C'est-à-dire qu'on, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un pilote, c'est-à-dire qu'on voilà, on fait une sorte d'émission zéro et on voit si ça marche. Donc, c'est une sorte d'investissement. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous plaira.
Et si ça marche pas, ce sera déjà un vrai plaisir d'y avoir fait.
Franchement, on a kiffé 5-6 sketchs ensemble et c'était assez cool. Ouais. Les gens te connaissent aussi en tant qu'actrice, mais pas en tant que réalisatrice, hein, Eleonore.
Bah non, parce que moi, je réalise pas. Hein, donc...
Tu réalises pas du tout?
Non, un peu, mais, un peu. Je fais un stage là à Louis Lumière en octobre, justement pour assumer plus ce rôle. Que...
Je pense que c'est une question que tu veux peut-être, à mon avis, parce que tout ce que tu fais depuis le début... C'est quand même toi qui le mettais en scène à chaque fois, non?
Oui, je fais la mise en scène. Donc oui, il y en a qui vont dire, oui, bah, tu réalises. Mais techniquement, j'ai pas de... je ne vais pas être capable de dire, bon, bah, tu me fais un travelling là, comme ça. Je vais te dire, alors, je veux que ça fasse ça. Et...
C'est exactement... Ouais, ouais. Et ben, c'est ce que, après,
mais je n'ai pas les termes.
Est-ce que François, toi qui es réalisateur, est-ce que tu dis ça, travelling, machin,
bah,
ou pas?
Alors, tu connais les termes techniques.
Il y a plusieurs types de réals. Il y a les réals qui connaissent leur focal, etc.
Yo, c'est Alfie, l'un des monteurs de l'émission, juste pour parler avec vous de focal, parce que c'est un terme technique qui peut faire un petit peu peur. Et ça se trouve que certains et certaines d'entre vous ne savent pas ce que c'est, du coup, on y va. Quand on parle de focale, on parle en fait de distance focale. Et la distance focale se mesure en millimètres, donc c'est de ça dont on parle quand on parle de 35 mm ou 50 mm ou 120 mm. Et c'est la distance qui sépare le capteur de l'objectif. Grosso modo, tous les objectifs du monde ont une distance focale. Est-ce qu'elle est variable? On peut zoomer à même objectif ou est-ce qu'elle est fixe? Il faut changer d'objectif pour changer de focale. Ça, c'est à voir, mais... Tous les objectifs en ont un et une distance focale influe sur plusieurs choses au niveau de l'image. Déjà, elle influe sur le cadre en lui-même. Si vous prenez une caméra à un point A et que vous mettez un objectif de 35 mm puis un objectif de 120 mm, vous aurez deux plans totalement différents. Le plan avec 120 mm sera beaucoup plus rapproché que celui de 35. Grosso modo, c'est un peu comme si on zoomait dans l'image. Mais il n'y a pas que ça, parce que justement, comme je l'ai dit, la caméra est placée au même endroit mais montre une image différente. Et en plus de ça, en plus du cadre qui change, on a aussi la matière à l'intérieur de ce cadre qui va changer. À savoir la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est l'espace de netteté entre le point le plus avancé de l'image et le point le plus reculé de l'image. Plus la focale est longue, plus vous aurez une profondeur de champ réduite. Donc quand vous avez des focales courtes, vous avez à peu près tout de net, à peu près, hein, dans les grandes lignes. Alors que si vous prenez une focale très longue, vous n'allez avoir qu'une toute petite portion de l'image qui est réellement nette, et le reste sera totalement flou. Et fatalement, plus vous agrandissez la distance focale, et plus le flou sera flou, et plus le net sera hyper net. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc les GoPro, avec leur fisheye très caractéristique, et leur netteté totale, bah, c'est de la focale très courte. Par contre, les caméras qu'on voit dans les matchs de foot, pour zoomer au plus près des joueurs, pour capter leurs gouttes de sueur, bah, c'est de la focale longue, parce que les caméramans sont souvent assez en retrait, et peuvent fatalement se rapprocher. Ils ont besoin de matière pour capter les choses au plus proche de l'action et donc c'est de la focale tout simplement longue. Bien sûr, la focale, ça veut dire beaucoup de choses techniquement, mais aussi artistiquement. Et c'est pour ça que les réalisateurs choisissent des focales bien particulières avec leur chef opérateur. Est-ce qu'on veut une focale longue ou courte? Ça n'a pas seulement une influence sur la profondeur de champ ou le cadre, ça a aussi une influence sur le mouvement dans le cadre. Est-ce qu'il va être ample? Le mouvement de la caméra, comment il va être perçu? Bref, ça influe sur plein de choses. Mais grosso modo, la focale, bah, c'est ça. C'est assez simple, en fait, la focale. C'est pas si compliqué que ça.
Et t'as des réals, genre Kevin Smith. Lui, il a, je sais pas, 40 ans, 50 ans, et il sait toujours pas ses focales.
Ah ouais,
il dit, tu me fais un plan comme ça. Et les ouais, gens le font, ouais, parce que c'est leur boulot de le faire, de traduire, ouais, on va dire, en images, ces indications. Donc ça existe, il n'y a pas de problème.
C'est pas savoir ça. Si vous êtes... Il y a plein de gens qui veulent être réalisateurs. Ouais, ça, ils disent, ouais, je connais pas la technique. Ouais. Je sais pas, Navo, nous, on n'a pas été formés à la technique. On a appris.
Je m'habitue à force que le technicien me dise ce que tu dis, c'est ça. Mmh. Ça s'appelle un travelling. Après, je fais OK. Mais la prochaine fois, je te dirai travelling. Mais quand j'ai dit ça fait comme ça, t'as compris.
Oui.
Donc, c'est plus ton.
Ouais, ouais,
si
c'est...
t'as une vision artistique de ce que doit être et que tu veux la mener à bout, t'es réel. Ouais.
Disons que je pense que j'ai plus la vision des acteurs, de là où je veux les emmener, et de la situation globale que de la. j'ai pas forcément... Enfin, sur Genre Humaine, je travaille avec Amaury Dequet, qui lui est vraiment réalisateur. Et lui, par exemple, je trouve qu'il vient sublimer le truc parce qu'il a l'idée voilà, d'aller prendre un plan dans le miroir, machin. Et ça, moi, mon cerveau, il n'est pas encore... Mais
et,
ça va venir, parce
que
je vais
travailler. Et même quand tu joues et réaliser, c'est vraiment... C'est pareil, c'est une, dichotomie totale. C'est genre, tu dois faire vraiment la part entre... Tu dois réaliser, parler des techniciens, après tu dois parler des acteurs, après tu dois te, digérer, tu dois te gérer toi-même. Et c'est assez, assez complexe. Ouais. C'est, ça rend ouf, quoi. Moi, je ne pourrais pas, je pense pas, je pourrais le faire tout seul. Ce ne serait pas très amusant de le faire tout seul. Je pense que c'est bien de le faire ensemble.
Enfin, tu pourrais, mais je pense que ça ne te ferait pas kiffer.
Ouais, voilà, là, tu peux t'occuper de...
Parce qu'il y a un rapport de confiance. Quand tu es comédien, tu as quand, quand même besoin qu'on te dise que c'est bien.
C'est vrai.
Parce que tu n'es pas derrière la caméra, ou alors tu fais des replays tout le temps. Enfin, tu vois. Là, moi, quand je te dis, OK, elle est bonne, tu me fais confiance. OK, elle est bonne. On sait, tous les deux, on sait ce qu'on voulait. Je l'ai joué, il me dit qu'elle est bonne, je lui fais confiance.
Exactement.
Soit tu peux vraiment dire, tu peux remettre. Ah, elle n'est pas bonne. On y retourne. Ah, c'est compliqué.
Genre Humaine saison 1, saison 2, disponible sur YouTube.
Oui, sur YouTube.
Saison 3 bientôt.
J'espère, ouais.
Ouais,
ouais.
Écriture ou
c'est financement. C'est écrit, mais elle est budgétée à 95 000 euros. Et
95 000 euros.
Donc c'est le plus du double de la deuxième, mais d'accord. Parce que techniquement, on va beaucoup plus loin. Et voilà, j'ai pas pensé en l'écrivant.
Déjà,
que,
ça se passe dans l'espace maintenant.
Très cher,
c'est vrai que ça se passe dans l'espace avec un cheval.
Ça se passe dans
volant
une piscine.
Les... Genre alien.
Ça se passe, ouais. Non, mais il y a des trucs techniquement qui vont être un peu compliqués. Mais bon.
Mais tant mieux, c'est bien d'être ambitieux.
Bah ouais, moi je me dis, allons-y.
Du coup, le financement,
quoi.
C'était quoi,
allons-y.
C'était
bah,
CNC.
Le financement, là, on redemande le CNC. Et putain, mais le CNC, sans déconner, c'est grâce à eux que je fais tout là depuis 2 ans.
Bah ouais, c'est pour ça
c'est
qu'on
quand
les aime.
Même, ouais, c'est quand même trop bien. Et là, je vais faire un truc que j'ai horreur de ça, mais je vais faire une cagnotte. Oh. En fait, j'ai horreur de ça parce que tu sais, c'est trop chiant.
Pourquoi non,
tu,
bah non,
tu dois trop parler de ça tout le temps sur les réseaux. Et,
c'est une campagne.
Moi, je vous le dis, il y a des gens. Bon, pas les potes, je donne, mais après, j'arrête de les suivre, je les mets en mute tellement ça me saoule à chaque fois la story de n'oubliez pas ma cagnotte.
On est déjà
tout.
À 32%.
Ouais, putain, tellement chiant, tu sais, et ça dure 2 mois, ils parlent que de ça pendant. Et puis les gens qui parlent que d'un projet tout le temps, ça me saoule. Donc voilà, mais je vais le faire.
Ouais, ça va, ça se passe bien, t'as envie de le faire, t'as envie de le sortir.
Ah non, mais c'est, ouais, plus qu'envie, c'est une urgence, là, vraiment.
Ouais.
Et il faut le faire là parce que dans 6 mois, j'aurais plus du tout envie de parler de ça. Déjà, je commence à... Il faut le faire, là.
Ça vous avez déjà senti ça, justement, ce côté... T'as déjà senti ça, François, le côté genre, si ça sort pas maintenant, après, dans 3 ans, c'est plus envie,
ouais,
plus envie de le faire.
Ah bah, c'est le gros problème avec les longs-métrages.
Mais
hein.
Oui, c'est
que
ça, c'est horrible.
Tu les écris... quand un long-métrage sort, c'est un truc qui a 5 ans, en fait, en termes de gestation.
C'est toi, il y a 5 ans,
voilà,
en tant
ouais.
En plus.
Ouais, ouais, donc c'est toujours déstabilisant de se dire... C'est pour ça que, heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a les podcasts, heureusement qu'il y a des trucs comme ça, rapides, où on peut avoir une idée, le faire, ça nous sauve. Parce que les autres projets ou les séries, ça prend tellement de temps que voilà, le temps qu'on le fasse, on se dit, mais est-ce que c'est pertinent?
Oui, mais est-ce que c'est notre parcours? Moi, je me demande souvent, parce qu'on a grandi, nous, justement, avec cette génération où tout va très vite, les sketchs, Golden Moustache, les gueules, machin... où t'avais une idée, t'écrivais le truc, et en fait, 3 semaines, 1 mois plus tard, tu le tournais. Mmh. Et je me demande si c'est est-ce que ça a fait de nous des artistes pourrigatés où on a parce que je sais pas, je me demande, il faudrait discuter avec quelqu'un, j'en sais, qui a fait un parcours beaucoup plus classique comme la Fémis ou quelque chose où on leur apprend justement la patience qu'un long métrage avec des années. Je sais pas, je me demande souvent.
Bah faut faire les deux, moi je dis.
Ouais, il faut faire les deux, c'est sûr.
Ouais, mais alors justement les gens qui viennent du sketch sont formés justement à être efficaces, là où les gens qui sont formés au long métrage sont formés à faire des longs métrages, c'est-à-dire vraiment le long métrage, l'histoire et tout. Il y a pas de bien de mal, mais je trouve que la personne qui est formée au sketch, elle est formée à l'efficacité, puis elle se dédouble, elle sait faire plein de choses, donc c'est une très bonne formation, tu vois. Il y a pas de meilleure formation, tu vois, tu disais ouais, je suis pas technique, je fais une formation et tout. Je suis pas sûr qu'il fallait faire une formation pour faire des trucs, tu vois, je pense
pas. Ouais, mais c'est juste pour arriver sur un plateau et avoir confiance en moi. Tu peux dire, oh, écoutez, j'ai fait Louis Lumière. Donc,
donne un chapeau après, c'est bien.
Donc, mais, je vais mettre une casquette.
C'est quoi, ah bah c'est oui, t'es obligé.
C'est quoi, c'est la barbe et tout.
Ah ouais.
Comme une vraie réale.
Je vais faire des plans comme ça en noir et blanc. Ça,
déjà, oui, première chose à faire, les plans avec les mains. Si tu fais ça.
Mais déjà, rien que ça, je sais jamais comment faut le mettre, le truc.
Alors, vous faites comme ça.
Le signe de Joule, c'est
voilà.
Ouais.
Ça, on va gérer ça.
Ils te l'apprennent à Louis Lumière. C'est le seul truc qu'ils t'apprennent.
Ce que j'aime bien avec cette émission, c'est de pouvoir répondre à tous les gens qui m'écrivent et qui me posent des questions, à savoir, ouais, j'ai des idées, je veux faire des choses, je veux entreprendre, je veux faire une série. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai une idée, mais moi, j'ai un travail, ça ne m'intéresse pas de la faire, donc je te la donne.
Ah,
je fais, non.
Mais non, c'est à toi.
J'ai des idées aussi, c'est cool. Mais il y a plein de gens aussi qui m'écrivent, qui me disent, je sais pas, j'ai besoin de contact, j'aimerais bien faire ce truc, qu'est-ce que je peux faire et tout. est-ce que moi je pense qu'il faut un déclic. Ça a été quoi votre déclic, vous, pour entreprendre à faire des trucs?
Ah mais lui là, il est là à 2 ans et demi, il était avec le caméscope de papa, il faisait déjà des films.
C'était pas à 2 ans et demi,
je
ne
peux
mais...
pas me souvenir. Je suis né avec une caméra entre les mains.
Alors ça c'est la réponse, mais c'est vrai. Comme chaque fois tes blagues, elles font mal mais elles sont vraies. Donc du coup oui.
C'est genre, François, c'est quoi le déclic? Comment tu t'es dit je vais marcher sur mes deux pieds, je vais marcher maintenant?
Alors pour...
t'es passé de à quatre pattes.
C'est-à-dire tu t'es né, t'as pris ta caméra, t'as dit je vais tourner Ghostbusters avec Bob et Manu.
Oh là là, j'adore.
Ah là le choc.
Ah là là, choc mental.
Oh le choc mental. Oh, choc mental. Oh, là, là. Regarde, il a mal à la tête là, il a froid à la tête.
Ça fait des oreilles. Alors, ça a été un de nos premiers courts-métrages.
Il s'en remet. Approche-toi du micro, si tu veux.
Donc oui, donc tu viens de citer un de nos premiers courts-métrages avec Florent Dorin. Il s'appelait Ghostbusters, parce qu'on était fans de Ghostbusters, et voilà. Et
que vos parents n'étaient pas mariés.
oui, d'accord, ok. Et putain, en fait, avant ça, on faisait déjà des courts-métrages.
C'est marrant, c'est que t'es un peu, t'es Béli Mélo, t'es là.
Par où je prends le truc, voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est de plus, c'est ça le truc.
Quel a été ton déclic, vraiment, pour dire...
C'est tu l'as pas vu, rassure-moi.
Non, je l'ai pas vu.
Okay.
Non, non.
Il est dur, hein. Il est très, très dur.
Non, mais il y a un déclic, il y a un jour on se dit c'est ça que je veux faire, ou il y a un truc, je m'en...
C'est un jeu d'enfant pour moi. À la base, c'était un jeu d'enfant, dans le sens où j'avais 10 ans, et un jour on me dit mon père a un caméscope, parce que c'était même pas nous qui avions un caméscope, c'était le père d'un copain. Il veut bien... Alors, je vais raconter une histoire très bizarre. Il dit mon père veut bien nous filmer le dimanche après-midi dans la chambre.
Pardon, pourquoi tu me montres en disant très bien? Ah, ok. Attends pour moi, je comprends.
Et donc,
pourquoi
coup,
c'est moi qui t'ai montré.
C'est trop bien, on a un caméraman. Et donc moi, j'avais écrit un scénario.
C'est super, mais la caméra dans la chambre.
Et au final, on a fait nos premiers courts-métrages comme ça, en exploitant le père d'un ami qui nous filmait en train de faire une sorte de pièce de théâtre nulle. Il s'appelait Jurassic Plouk, parce qu'on était fans de...
Jurassic Park et que vous étiez
de Ghostbusters du coup.
Voilà. Okay. Donc du coup, on avait deux références et on les mettait en boucle et ça commençait comme ça. En fait, c'était des jeux du dimanche après-midi et l'idée c'était que après j'ai eu un caméscope et l'idée c'était le samedi mes copains viennent à la maison, on filme une histoire et le soir on la regarde puisqu'on n'avait pas de montage. Je te parle d'une époque bien sûr de la VHS, on pouvait pas monter. Du coup, l'idée c'était de monter, tourner-monter.
Ouais.
Et à 18h, on regarde la vidéo, on dit ah, on s'est bien marré.
Yo, c'est Alfie et je vais vous expliquer le tourner-monter. En fait, si on prend l'exemple de Un Bon Moment, il y a 4 points de vue. Un point de vue large avec tout le monde, un point de vue sur les invités, un point de vue sur Navo et un point de vue sur Can, en fait. Donc il y a vraiment 4 points de vue. Et si on prend une émission d'une heure, en fait, il y a pas une seule vidéo d'une heure, il y en a 4. Il y a 4 fois une heure de chaque point de vue. Et après, au montage, on choisit quel moment on veut, quel plan on veut, à quel timing. Et c'est pour ça qu'on a des chevauchements, pour ça qu'on a une discussion vachement fluide et que ça tourne et que c'est franchement hyper cool. Le truc, c'est que là, François, il parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à savoir une époque où le montage vidéo était extrêmement complexe. Pour vous dire, c'était une époque où les gens devaient, moi y compris, démonter les VHS et les cassettes, prendre les pellicules des cassettes et faire du montage avec du scotch. Vraiment, c'était vraiment une époque très très compliquée. Et par conséquent, quand vous voulez tourner avec des petits caméscopes, avec des toutes petites cassettes, que je me rappelle d'ailleurs, on mettait dans des grandes cassettes, bref, c'était vraiment extrêmement galère. Et du coup, pour faire ça, on faisait un tourner-monter. Donc on tournait en pensant directement au montage. Et si on reprend l'exemple de Un Bon Moment, un tourner-monter reviendrait à, par exemple, filmer Kian. On installe toute la lumière pour filmer Kian. Kian dit sa phrase, super, il a parlé, et quand Navo veut répondre... On arrête de couper avant que Navo réponde, on réinstalle toute la lumière sur Navo, Navo répond. Quand Navo a répondu et que Kian doit re-répondre, on désinstalle toute la lumière, on la réinstalle sur Kian et ainsi de suite. Donc forcément, c'est hyper laborieux pour des projets sérieux comme celui-ci, mais pour les petites fictions qu'on faisait quand on était jeune, c'était très pratique parce qu'on avait qu'à tourner et changer de point de vue, couper juste avant la prochaine réplique, et en fait, directement dans la VHS, dans la pellicule de la VHS, on avait le film directement monté et on pouvait le diffuser. Donc comme j'ai dit, on mettait la petite cassette dans une grosse cassette, on le mettait de manière et on pouvait voir notre film directement monté. Donc c'était un tournage en pensant au montage. Aujourd'hui ça se fait plus parce que maintenant on monte avec des ordinateurs, on monte même avec notre portable, c'est quand même assez dingue. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, monter c'était un petit peu un luxe et surtout le montage informatique n'était vraiment pas encore démocratisé. Voilà, ça c'est un tourné-monté, tout simplement.
Et c'était, au début c'était ça, puis après au bout d'un moment j'ai dit bah, ça serait bien d'écrire des histoires un peu plus longues et tout, et c'est devenu des séries, et après des web-séries et tout, mais à la base c'était une façon de s'occuper le week-end quoi. C'était ça, quoi, l'origine du truc.
Et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, il n'y a pas besoin de chercher? T'as fait à 18 ans, au moment où tu sors du cursus scolaire, qu'est-ce qui se passe?
Bah là, pour le coup, j'ai vu que je pouvais apprendre tout seul le montage, mais pas la lumière. Donc du coup, il me manquait, pour le coup, je voulais être un peu plus technique, c'était un peu ma volonté. Et donc la formation qui était parfaite pour moi, c'était un BTS audiovisuel, images. Et ça a pu compléter un peu, voilà, parce que je connaissais le montage, parce que voilà, on pouvait déjà télécharger des Adobe Premiere et tout. Mais voilà, j'avais un clip
Pinnacle.
Et donc, la lumière et les vraies caméras, entre guillemets, je n'avais pas ça à disposition. Et donc, j'ai fait un BTS pour compléter ça, quoi.
Parce que pour les gens, quand vous filmez avec un téléphone, vous avez, voilà, vous avez un truc. Ce qui fait la différence entre un film vraiment et un truc que tu filmes toi-même avec tes propres moyens, c'est la lumière.
Oui.
C'est vraiment, c'est ce qui va, c'est exactement. Un chef opérateur. C'est ouais. Un mec qui va et le son aussi, parce que le son, c'est très, très important d'avoir un son de qualité. Pas un son de salle de bain, genre, tu veux dire un truc ?
Ouais, bah ouais, je pense que c'est super.
T'as un son d'iPhone loin.
Bah, c'est pour ça que dans Le Visiteur Futur, dans la première saison, vu qu'on n'avait pas de Perchman, on filmait de très près.
De très près, ouais.
Le micro était sur la caméra, et donc je filmais Florent de très près pour avoir un son clean. Et plus on a avancé dans les saisons, dans les moyens, plus la caméra, on l'a reculé, quoi. On s'est dit, on fait des plans de plus en plus larges.
C'est l'école Courtrage-Mais un peu. C'est l'école.
Un peu, ouais.
C'est ça, très grand angle. Ils cherchaient très grand angle, très près, très ça. Ouais. Ça nous a beaucoup influencé, ça.
Ok. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette.
Bah, en fait, Courtrage-Mais, je pense qu'ils ont été aussi influencés comme moi par Sam Raimi, par Peter Jackson, ses premiers films, qui étaient par aussi même des Monty Python. Ils faisaient des sketchs dans Le Sens de la Vie. Il y a des trucs très grand angle. Et voilà, quoi, c'est. Ça vient de là, je pense, aussi. Courtrage-Mais, forcément, j'ai suivi ça aussi. C'était dingue de se dire, waouh, on peut faire des trucs de ouf avec pas grand-chose.
C'est le même destin, quoi, entre French Nerd et Courtrage-Mais. C'est ça qui est ouf, les mecs
tous
à Cannes et tout.
Bah, oui, pas encore, mais oui, voilà. Ouais.
Voilà.
Oui. Quel connard. Parce qu'elle m'a écouté attentivement.
Oui, je me suis dit, est-ce qu'il est sérieux?
Elle a son détecteur à connard qui commence à...
Y a, heureusement que Lola pour me défendre. Parce que moi, je dis toujours, tu as raison, Navo. Tu fais si drôle, Navo.
Te meurs pas.
C'est pas drôle, tu dis.
Donne pas ce plaisir.
Voilà.
Et toi, Eleonore, c'était quoi le déclic de dire je vais faire des trucs? Parce que t'as commencé sur Dailymotion il y a maintenant 10 piges, 12 piges.
Bah, c'est comme François, en fait. Mais je pense, nous tous, un peu, c'est quand on a découvert... Ouais, quand j'ai eu ma caméra. Enfin, au départ, j'avais un dictaphone donc, sur lequel j'enregistrais des histoires, des pièces de théâtre, des machins. Le spectacle vivant. On faisait des petits spectacles avec Bouchon. Et après, quand j'ai eu la caméra, c'était surtout les sketchs, quoi. Des fausses pubs, mais c'était les nuls,
Nuls, les inconnus.
C'était l'époque, voilà. Les inconnus, non. Moi, c'était vraiment les nuls. Mais ouais, c'était nulle part ailleurs qu'on regardait, qu'on trouvait ça fabuleux. Moi, je voulais faire ça. Je voulais être Chantal Lobby dans les nuls, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que tu t'y es mis, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah maintenant, c'est mon métier? Parce que tu vois, ce rêve d'enfant.
C'est vrai, mais
je pense que beaucoup de gens l'ont, ce rêve d'enfant.
Ouais.
Qu'est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, bah là, je suis dans la rue et mon statut, c'est j'écris des histoires.
C'est intéressant.
Parce que
comme
c'est
question,
ce step de dire, bah maintenant, j'ai mis des années, j'ai écrit des histoires, j'ai mis des années à me dire, putain, en fait, je suis auteur.
Ouais.
Et à dire que j'étais auteur ou acteur, même, tu sais, c'est un début quand t'es acteur, tu dis, mais.
Mais est-ce que tu te le dis du jour au lendemain?
Non,
je pense pas. Enfin, moi, j'ai arrêté le lycée pour faire ça, mais parce que j'allais très mal, j'étais vraiment en dépression totale. Et je pense que je m'étais dit, ça va me sauver, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui m'anime. Mais au final, ça ne m'a pas...
ça ne m'a pas sauvé.
Enfin, si, bien sûr, je ne regrette pas, mais c'était...
Moi, mon plan B, c'était... Je me suis dit, bon, il n'y a que deux métiers que je peux faire, soit réalisateur, soit, pour avoir de l'argent, travailler dans un magasin qui loue des DVD. Donc, il y en a un qui n'existe plus. Donc, mon plan B, voilà, il est annulé.
Il s'est annulé tout seul.
J'ai fait, bon, bah, j'ai tué un plan hein, maintenant et je dois m'y tenir. Quoi. Mais vraiment, c'était mon seul.
Ah, c'est marrant.
C'était le seul truc que je voulais faire.
Tu voulais bosser dans une boutique de. Bah, ouais, je
me suis dit, bah ouais, soit je fais des films, soit j'en parle.
Ouais.
En louant des films, tu vois.
Bon. Et journaliste, critique ciné et tout.
Non, non parce qu'il fallait écrire et tout.
La flemme.
Non, ouais, voilà, être derrière un truc et regarder. Parce que j'avais fait mon stage de troisième, je l'ai fait dans un truc de DVD. Et c'était génial, quoi, d'être assis, regarder des films, ranger les DVD dans un ordre que tu veux. Genre, oui, finalement, j'ai mis les films que j'aime bien plus en avant. Je me dis, mais c'est le métier de rêve, quoi.
C'est comme le rêve d'être testeur de jeux vidéo.
Voilà, sauf que ça, c'est plus chiant parce que tu
testeur de bonbons.
Testeur de jeux vidéo, ce qu'on te dit pas, c'est que tu testes des jeux pas finis. Et chiant, et tu fais tous les trucs qu'il ne faut pas faire dans le jeu pour faire la liste des bugs. Donc ça, je pense que c'est un peu un piège.
Alors, vendeur de jeux vidéo.
Vendeur de jeux vidéo,
c'est
l'équivalent
de...
Ouais,
c'est ça. Des loueurs de jeux vidéo.
Avant, il y avait ça, mais ouais.
C'était quoi ton déclic, Navo?
Ah, mais moi, alors, rien à voir. Parce qu'en fait, moi, je suis allé à la NPE.
Ouais.
Et ils m'ont dit...
Vous êtes auteur.
Voilà, vous faut devenir auteur et tout.
Il y a un projet qui s'appelle Bref. Voilà. Il y a un gars qui cherche, il cherche un co-auteur, un co-réalisateur. Vous n'avez rien fait, mais c'est pas grave.
T'avais mis une annonce.
J'avais mis une annonce.
Non, c'est vrai.
Mais non. Non, c'est parce que tu disais, comme tout le monde, c'était un rêve d'enfant. Et moi, je suis le seul. Moi, vraiment, c'était tracé. J'étais trader.
J'ai envoyé mon CV.
Là, tout s'est effondré. En fait, j'ai une malversation. Voilà, je m'en suis sorti avec juste un an de prison. Et là, ils m'ont dit,
bah, d'initié.
Voilà. Ils m'ont dit, faut être réel maintenant. Moi, j'étais là, bon, bah, on va voir.
Tu purges une peine, en fait, c'est ça.
Ah, je fais ça pour l'argent.
Ouais, ouais, ouais.
De toute façon, moi, je fais vraiment ça pour l'argent. Ouais. J'aurais pas fait Bref. Tu vois, j'aurais fait Le Visiteur du Futur si je voulais pas
pour
faire
l'argent. Pour l'art, ça aurait fait ça pour l'art. Voilà.
Non, mon déclic de. Moi, je pense que c'est. Ah, si, moi, mais parce que moi, ça passe par la scène. Donc, moi, c'est quand Kairon, qui est un ami d'enfance, s'est lancé dans le stand-up et qu'à force que je lui file des coups de main, m'a dit soit mon co-auteur, qu'ensuite il a fait le Jamel Comedy Club, que là, je suis arrivé au Jamel Comedy Club en tant que co-auteur de Kairon et que j'ai vu l'ambiance et que j'ai vu tous les humoristes et que moi, j'étais un des seuls auteurs.
T'as 26 ans à ce moment-là.
Ouais, 25.
25.
Et de dire à des humoristes. Essaye de le dire comme ça, et après ils le font, et après les gens ils rigolent. J'étais là, mais c'est mon métier.
Je suis un puppet master.
Le voilà.
J'avoue.
Voilà. Donc le déclic pour la scène, c'était ça. Et après, avec Kairon, on avait fait Les Voisins du Dessus, qui était une web série sur des prophètes qui vivent en colocation. Et la première était réalisée par un gars. Et puis, quand on a voulu faire la deuxième session, moi j'étais venu pendant la première version réalisée par un gars et j'arrêtais pas de donner mon avis, de faire chier tout le monde. Et donc dans la deuxième, Kairon m'a dit bah viens, on le réalise ensemble, j'ai vu que t'avais des bonnes idées, on va réaliser ensemble la deuxième. Et donc je me suis formé en arrivant en disant salut les gars, j'y connais rien mais je sais ce qu'on veut. En fait, c'est un peu de l'inconscience. Enfin, c'est de la confiance en soi. En fait, c'est de la confiance en soi. C'est-à-dire que j'avais fait que ça. Et après, on a dit, bon, alors, on réalise un programme court pour Canal Plus, là. Ben ouais, c'est bon, j'ai fait Les Voisins du Dessus. C'est bon, je suis réel. Et après, quand je suis arrivé, pareil, ouais, j'ai dit à toute l'équipe technique, faudra bien m'expliquer tous les mots. Et moi, je vais essayer de bien les retenir. Et ouais, c'est ma formation. Et après, Bref, pour le coup, c'est, à mon sens, une des meilleures formations de réel.
Ah bah oui.
Parce que t'as que des mini-plans, des courts-métrages, tous différents, des trucs à gérer dans ta vie. C'est une formation accélérée.
En fait, ce que j'aime et ce qui me fascine, et ce que je me disais quand j'étais jeune artiste en devenir, c'est que j'étais pas du tout artiste, j'avais envie de le faire, c'est qu'il y a un avant et un après dans les profils de gens. Mmh. Et Navo, quand il a 24 ans, il est pas. Et quand il a 26 ans, il est. Mais par les opportunités et parce qu'il se lance à un moment donné. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est vraiment, c'est très régulièrement, hebdomadairement, j'ai vraiment quelques messages, des gens qui me disent comment tu fais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on est tous une personne avant, à un moment donné, avant de se lancer. Et à un moment donné, on se lance et on est la personne d'après.
Mais ça passe par une période de bullshit un peu. Une période où tu dois quand même te le convaincre toi-même.
Oui.
Bien sûr.
Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai reçu une note de droit d'auteur, c'était pour un truc où je devais parler de... c'était un concours de dessin pour enfants. Et je devais juste écrire dans un site « Bravo Jérémy, ton dessin est super !» Et j'ai une note de droit d'auteur. Et dans ma tête, je dis « C'est bon, je suis auteur. Tel Stanley Kubrick, tel Aaron Sorkin, je suis auteur. Nous faisons le même métier maintenant. » Mais ça m'a donné confiance en moi, même si ce que je faisais, c'était vraiment répondre à des enfants pour un magazine. Mais voilà, j'avais besoin de ça quand même. Une petite preuve, tu vois.
Ouais.
Même si c'était un peu loin, mais chacun a besoin un peu
c'est
de se rassurer.
C'est plus la thune, la preuve, non ? Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à payer mon loyer, tu vois, où je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est mon métier, j'assume, c'est mon métier. Je mange et je paye mon loyer, c'est...
Oui.
C'est surtout...
Après,
c'est lié quand
après,
vachement...
c'est payé,
ça va lui arriver, il va s'en rendre compte, mais là, laisse-le, quoi. Dès qu'il arrivera à payer son loyer avec ce qu'il fait...
Il va dire allô, c'est vrai, je peux prendre les oranges et les carottes.
Bien sûr,
très bien, merci.
Évidemment, tu peux prendre les oranges. Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Et du coup, ton déclic, Cannes, c'était.
Mon déclic, c'était. La première fois que je me suis posé la question, je regardais un DVD de Franck Dubosc dans le magasin de mon père. Moi, je faisais pareil, je faisais du montage, j'avais ma caméra et tout. Mais à ce moment-là, il n'y a rien, quoi. Je vais filmer des potes qui font des concerts, je mets 4 caméras, je squatte des caméras un peu à tout le monde. Après, je fais du montage chez moi, tu vois, dans le magasin de mon père où je tenais le magasin de tapis. Et en vrai, je regarde un DVD de Franck Dubosc et je me dis, mais ce mec-là...
C'était un magasin de tapis de souris. Hein. C'est ça qui est
c'était
ouf.
C'était pas très... C'était hyper porteur
mois.
Dans les années 2000.
Non, non. Six mois après,
2000,
ça s'est effondré.
On avait le petit repose-poignet, c'était assez bien fait. En mousse, en gel aussi, c'était pas mal. On avait le trackball. Enfin, il y avait tout un panel disponible sur une bonne boutique. Et je me rappelle avoir eu Franck Dubosc et je me suis dit, mais ce mec, il est trop marrant, là, il est au Zénith. Mais il y a bien un moment dans sa vie... Bah, c'est la première fois qu'il est monté sur scène. Mmh. C'est la première fois qu'il est arrivé, qu'il a fait je vais faire des blagues. Il y a bien un moment dans sa vie, tu vois, il y a ce truc. Il y a le mec d'avant et le mec de maintenant. Et le mec. Et je pense qu'on.
Tu saurais dire pourquoi ça t'a frappé en voyant Franck Dubosc ? Parce que tu avais déjà vu des spectacles avant.
Oui, mais
quand
c'est
quoi j'ai la vu réflexion
Franck... Parce que Franck Dubosc, j'ai vu son. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un humoriste devenir connu. C'est-à-dire qu'avant, tu voyais Bigard, Bigard était déjà connu. Muriel Robin était déjà connu. Pierre Palmade était déjà connu. Pour moi, c'était des stars, tu vois. Les Inconnus, c'était des grosses stars. Ouais.
Et Jamel, et Dubosc, tu comptais pas parce qu'il est arabe et que t'es raciste.
Non.
c'est le meilleur nom.
Non mais Jamel.
Non, c'est une blague, c'est une blague.
Jamel, je l'ai pas vu arriver. Jamel, quand il est arrivé, c'était déjà une resta.
Ah oui, parce que t'étais à Reims, vous avez
c'était
pas
genre,
la
4. C'est Jamel, c'est une star
non, mais
et tout.
Si, c'est vrai, ouais.
Mais Dubosc, je l'ai vu aller sur France 5.
Non, ça, c'est ouais. un truc de mec à Reims, c'est sûr. T'avais pas la 4. Pour toi, nous, on l'a vu arriver. On a le même âge.
Oui, mais Jamel, quand t'étais à Canal, t'étais déjà une star. Franck, il avait pas une chronique à la télé. C'était un humoriste qui vendait un spectacle.
Ah oui, ok, c'est pas le fait qu'ils deviennent connus.
Oui,
c'est
voilà, c'était le mec des petites annonces. Mais on s'est pas dit, c'est pas Elie Semoun, tu vois.
C'est vrai que c'était le gars à côté d'Elie Semoun pendant longtemps.
Et il avait un spectacle, il va à la télé, il dit oui, j'ai un spectacle. Et ça, c'était nouveau pour moi de dire putain, il y a un mec, il a un spectacle.
Oui, d'accord, ouais. Genre, alors, quelle émotion, Franck, c'est votre premier spectacle, votre première Olympiade, tu vois, attends, il existe.
Voilà, c'est ça. Et en fait, tu dis, le gars, il passe. Et puis en plus, il a toujours eu un discours en disant, ouais, moi, je viens d'un milieu très modeste et tout. Et ça connectait vachement avec moi. Quoi. Je me dis, putain, c'est ouf, quoi. Et le gars a fait un premier step et il parlait justement du réservoir à l'époque. Et il allait au réservoir rue de la Forge Royale. Et il montait, et il disait, il testait des sketchs tous les mercredis et il testait un sketch par semaine. Et je me dis, putain, c'est ouf, c'est ça. Puis après, je suis monté à Paris, je me suis donné les moyens et le déclic, ça a été au cours Simon. Premier jour, premier cours, j'arrive, je tape une barre de ouf. Je me dis, ok, ça, c'est ma life maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Je ne reviendrai plus à Reims, juste pour le repas de Noël, vite fait, histoire de gratter un peu de féculents et de protéines. Mais sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce déclic-là. Et c'est ça, vers ça que je voulais aller. C'était, on est à un moment donné le mec d'avant ou la femme d'avant, et à un moment donné, on est la personne d'après parce qu'on s'est lancé à un moment donné. On a eu plusieurs déclics et faut y aller, quoi. Faut juste y aller.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a un gros facteur chance. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est un truc qui est compliqué parce que c'est toujours plus facile de voir, nous,
a posteriori.
Après, posteriori, de dire, bah oui, il a suffi que je fasse ça pour débloquer tout ça. Mais en fait, quelqu'un d'autre fait la même chose à 2 ans d'écart et ça ne marche pas forcément de la même façon. Et c'est pour ça que c'est très dur pour notre génération de conseiller même des jeunes, à part le fait de dire bah, essaye de faire le maximum, tu vois. Mais on ne peut pas leur dire, il faut que tu fasses ça, après tu fais ça, après tu fais ça, parce que toutes les règles changent tout le temps.
C'est comme si on te demandait, mais tu as joué quel numéro pour gagner au loto?
Voilà, oui.
En fait, toi, tu as la sensation que tu as eu de la chance, mais ce n'est pas que de la chance. C'est-à-dire que malgré tout, dans ta démarche, il y a une... En fait, à un moment, justement, on s'était posé cette question parce qu'on avait fait une masterclass. Et que du coup, il y avait ce truc où on était là, mais c'est trop bizarre de... C'est-à-dire, on a fait bref, maintenant on nous demande comment réussir, alors que nous-mêmes, on ne le savait pas la veille. Tu vois, c'est pas on s'est dit, on a trouvé comment réussir.
Vous avez bossé quand même.
Et en fait, le truc sur la conclusion sur laquelle on était arrivé, c'était qu'il fallait respecter la chance, en fait.
C'est ça.
La conclusion à laquelle on était arrivé, c'était, en fait, toi, tu dois être prêt pour le moment où il y a de la chance, et tu dois y aller quand on te donne la chance. Tu vois, c'est un peu genre Eminem, genre one shot, tu vois. C'est là, on me donne une chance et il faut pas chipoter. Moi, ça m'arrive de voir des gens qui se disent non, j'y arriverai pas ou non, ou tu sais, ils chipotent et je dis, mais vraiment, pour moi, ce truc de vous pouvez faire 80 épisodes pour Canal,
tu dis oui, tu réfléchis pas,
tu dis pas non, tu dis pas
en fait,
ouais, non, je suis pas sûr de moi. Ce qu'ils font, bah, j'étais pas sûr de toi, mon gars, c'est sûr, quoi, pas de dire oui.
Moi, j'étais pas sûr. J'avais fait un, j'avais envie de mourir déjà, mais après il m'a dit non, t'inquiète et tout.
C'est vrai qu'on était dans le bureau, moi j'étais oui, 80, 120 même, 2000.
Je le regarde, 120, il est ouf ou quoi? On avait fait un, j'avais saigné ma vie, j'étais là, genre.
Mais quand t'as fait le cours Simon, t'es arrivé à faire
voilà,
une
genre, oui, oui, voilà. Oui, jouer comme ça. Oui, 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 oui.
Et donc, oui, il y a un truc où tu peux pas dire à la lettre, fais comme moi, parce que de toute façon, c'est chacun fait comme il
et
peut
tout change.
Avec la chance qu'il a.
Moi, je peux pas dire aux gens, bah, faites une web série et mettez-la sur Dailymotion. Tu vois, ça n'aura pas la même impact.
Tu peux dire, faites quelque chose.
Oui,
et faut juste fais-le. Et...
C'est de la pensée abstraite. Il faut tirer le truc abstrait.
Voilà,
de...
Mais il faut que les jeunes reconnaissent qu'est-ce qui est autour d'eux, qui est accessible, que nous, on n'avait pas.
Ouais.
Donc là, il y a en plus, il y a 10 000 autres trucs nouveaux.
C'est dur,
voilà.
Bah,
il y a TikTok.
C'est dur, tu trouves.
Bah, moi, je trouve ça dur aujourd'hui parce qu'il y a trop de trucs.
À démerger, tu veux dire,
oui,
dans toute cette masse.
On est trop, il y a trop de trucs, il y a trop
facile,
de plateformes. Mais...
Ouais. Mais c'est ça, mais c'est aussi
trop
ça. C'est qu'à l'époque, faire des épisodes qui se suivent sur Dailymotion, tu vois, Moi, j'avais vu les voisins du dessus, parce qu'il n'y avait pas 36 000 ouais. web-séries.
Parce qu'on était vos concurrents directs, ouais.
Voilà, on s'est dit, oh là là, eux, c'est les prophètes. Alors, ok, super. Ah,
super. Ça ressemble à ce qu'on fait.
Voilà, ils sont un peu magiques.
On s'est battus dans la rue, je me souviens.
Ouais, 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 on s'est croisés. Fait, hey,
il y avait
de trottoir.
Il y avait des coups de couteau, je crois. Ah, ouais. Vous s'y attachez à un poignet.
Voilà.
Mais non, c'est un document. Ça n'a rien à voir.
Mais du coup, quand on était si peu nombreux, bah, on s'est très vite tous connus, en fait. Ouais. Tous ceux qui ont débuté sur Dailymotion, Palma Show. Jérôme Niel, je me rappelle ouais. de tous ceux-là, on a tous commencé en même temps, et au final, on était peut-être une vingtaine au même moment, tu vois. Maintenant, ils sont 300, bah, 500, 1000.
Non, mais il y a plus d'opportunités. Moi, je trouve que c'est positif.
Non, mais c'est juste différent. Moi, je pense qu'ils ont plus d'opportunités, mais il faut qu'ils fassent des trucs tellement différents, et ils sont, surtout aussi, tu as aussi le fait qu'ils sont comparés à des gens qui font des millions de vues, alors que nous, on faisait ouais. 5000 vues, on était en mode « Yes, 5000 vues oui, mais, on est les rois du monde !»
Oui, mais vous étiez comparé aux gens qui faisaient 20 000 vues.
Mais on n'était pas tant de ça. Hein.
Bah oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que le mec qui faisait sa web série et qui faisait que 300 vues, on lui disait, bah dis donc, Visiteurs du futur, ils en ont fait 5000.
Ouais.
Donc c'est toujours pareil. Le fait que le nombre change, qu'il y ait plus de gens qui regardent, pour moi, ça ne change pas le truc intérieur de quelqu'un qui a envie de créer des choses.
C'est peut-être plus intimidant quand même.
Dans le fond, c'est pareil. Mais sur la forme, c'est quand même plus intimidant.
Je ne sais pas si vous avez connu des microcosmes, mais pour moi, c'est même dans les... Tu vois, je faisais des blogs BD. Mais les gens, ils croyaient qu'ils étaient incroyables. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu prends du recul, tu dis, mais il y avait 4000 lecteurs, mais genre, il y avait des stars dedans. Mmh. Donc, et c'était hyper intimidant. Moi, je voyais des gens, ils faisaient des blogs. Moi, je m'en battais les couilles. J'étais le challenger. Je faisais la bande pas dessinée. Il n'y avait pas de dessin. Je vous emmerde. Mmh. Mais les autres, c'était là. Mon trait de crayon n'est pas parfait comparé à celui de Boulet. Tu vois. Et en fait, tu dis, oui, mais à l'échelle de.
Oui.
Pour le coup, quelques milliers de personnes. Donc,
c'est là où toi, tu étais malin. T'as pas essayé d'être en concurrence avec Boulet, justement. Tu t'es dit, je vais faire un truc que Boulet fait pas, à savoir ne pas dessiner.
Non, mais ça, c'était un choix. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de personnes, c'est pas ça qui est intimidant. C'est le fait qu'il y a déjà quelqu'un qui soit déjà reconnu dans le milieu où tu veux aller. Et ça, je pense que c'est le cas partout, sauf si tout d'un coup, t'es le premier à te lancer dans un truc qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il y avait forcément des. En fait, je pense que toi, tu vois des facilités dans faire le Visiteur du futur en disant, ouais, à l'époque, c'était moins dur que les mecs de maintenant.
C'était dur, mais il y avait des difficultés. Sur le long terme.
Mais oui.
Un épisode, c'était pas dur à faire au début.
Une série sur Internet, c'était quand même saugrenu. Excuse-moi.
Idiot même, stupide et inutile.
Non,
vraiment.
Je dis non, mais c'était audacieux.
Ouais. Bah, c'était surtout de ne pas le faire, de le faire sans être payé pendant 2 ans. Ça te fait de faire un épisode de temps en temps, ok, mais de convaincre des gens de te suivre pendant 2 ans en disant, bon, je suis désolé, on n'a pas d'argent, mais un jour, j'espère qu'on va être produit. Et au final, d'arriver à être produit alors que ce n'était pas du tout acquis, c'était ça, c'était ça la vraie aventure du Visiteur Futur. Parce que les gens pensent qu'on était produit dès la saison 2 parce qu'on avait commencé à avoir un canon, donc l'image était mieux. Mais en fait, non, c'était la même non-production pendant 2 ans. Il fallait convaincre des copains, il fallait convaincre Éléonore de venir.
C'était bien chiant, Dieu sait que...
À manger des pâtes à midi,
Non, mais c'est sûr que c'était un investissement, c'était génial.
Mais moi, ce que je faisais tout pour que pour eux, ça leur prenne pas trop de temps. C'était ça aussi mon but. C'était que.
Mais aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi, j'oserais jamais.
Demander à des gens.
Bah, vraiment, à chaque fois que je fais un truc, je m'arrange pour que les gens soient payés. Je n'ose plus demander.
Mais justement, parce que ça a évolué. Mais je pense que cette évolution, c'est juste le monde qui change, mais c'est pas forcément. C'est-à-dire que toi, en échange, c'était impossible à l'époque qu'une chaîne de télé te prenne au sérieux.
Ah bah c'est pour ça qu'on l'a fait l'histoire future, si on savait qu'on allait pas diffuser sur une chaîne.
Quand bien même, après tu fais un truc qui a un succès sur internet, une chaîne de télé vient pas te chercher.
Pas forcément.
Là maintenant t'es dans un monde où si tu fais une story Instagram qui buzz, tu peux devenir chroniqueur. Donc c'est un échange en fait, c'est-à-dire qu'il y a plus il y a plus de gens qui veulent le faire et qui ont des opportunités de le faire, mais en échange il y a plus d'opportunités tout court.
Après, il y a aussi un autre truc qui est
Internet
différent.
Internet est pris au sérieux.
Oui, mais du coup, comme il y a des passerelles qui
se font. C'est pas les blagues sur Internet, comme disait ma mère. Ah, tu fais des blagues sur Internet.
Ouais, non, ça va maintenant.
Mais comme il y a des modèles maintenant, je pense aussi que c'est un autre problème, le fait qu'il y ait des gens qui disent « Ah, lui, il a fait ça, ça réussit, donc c'est ça qu'il faut faire. » Nous, quand on n'avait pas vraiment de modèle très précis, on faisait n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'il y avait peut-être plus d'originalité parce qu'on ne savait pas forcément si ça allait marcher. Et même un truc qui marchait sur Internet n'était pas forcément rentable. Alors que maintenant, il y a des vrais modèles très définis par l'algorithme YouTube qui dit si tu fais ce genre d'émission, tu vas être mis en avant et tout. Du coup, pour les nouveaux vrais jeunes, ils se sentent plus en mode il faut que je fasse ça.
On a réinventé la télé. On a maintenant des.
Tu vas sur TikTok ou sur je sais pas quoi.
Là, tu as des trucs vraiment différents. Mais c'est ça. Ouais. Maintenant, sur TikTok, tu as des trucs.
C'est juste, ça se décale.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est.
YouTube, c'est devenu la télé.
Exactement,
la télé, c'est pour les gens qui vont mourir. Et de l'autre côté, TikTok, c'est devenu Dailymotion, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
TikTok
ouais,
Dailymotion.
Bah, c'est devenu un espace
de
où
créativité.
Vine ou
ouais.
Tu vois.
Ah, d'accord. Ouais.
Un endroit où les gens un peu, ouais. pensent ouais. pas en termes d'argent, ils pensent mmh. en termes de créativité
oui,
parce
vrai.
Que ça leur donne les moyens de faire un truc, quoi. Mmh.
Donc faire, avoir de la chance, c'est parce que tu fais que tu peux avoir de la chance.
Ouais.
Et bah faire ce qu'on aime, quoi. Faire ce qui nous semble le mieux.
C'est ça, mais. Après, t'as aussi un décalage entre les technologies qui marchent.
Il n'y a pas besoin de formation non plus, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas besoin de formation, c'est ça aussi.
Maintenant, de moins en moins, t'as des tutos sur tout, sur YouTube. Tu peux, voilà, même tout ce que j'ai appris au
j'ai
BTS.
J'ai dressé mon chien sur YouTube.
C'est
donc,
vrai.
Voilà. Bah oui, mon chien est dressé grâce à YouTube. Je te jure, c'est pas des conneries.
Non, mais moi, j'ai fait des tutos YouTube pour mon bébé, mais j'ai quand même. Mais j'ai eu bah, plein de confinements, j'avais de ça. Donc. En tuto couche, tuto machin.
Moi, voilà. J'ai appris à faire l'amour sur Pornhub. Comment ils faisaient nos parents ? Nul ne le sait.
Ouais.
Mon père, je pense, il savait même pas qu'il fallait éjaculer sur le visage de ma mère, tu vois. Moi, je le sais.
Je t'en ai passé de mon bébé à au sperme sur le visage de ta mère très, très vite.
Ça se trouve, elle n'a jamais eu, la pauvre.
Mon père le savait pas.
Ça se trouve, elle n'a jamais eu, la pauvre. Tu vois ?
Le premier qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a su ?
C'est l'appel à une vraie sexualité.
Vous avez eu un gros succès de fans avec le Visiteur du Futur. Vous avez des anecdotes sur les conventions, les trucs comme ça, ça vous reste encore
oh ben,
Est-ce que vous en parlez pas trop le monde des conventions. Vous avez été
mais
dans
oui,
le monde des conventions.
Tout le temps, c'est fou.
C'est vrai ?
Mais
vous avez marqué, parce que moi, vous nous avez marqué.
Mais
moi, je regardais ça dans ma chambre, ça m'a marqué. Je me dis, putain, les gars, ils sont comme nous, ils font des trucs, c'est trop cool.
Mais Éléonore, je pense qu'elle a un rapport particulier, parce que dans le Visiteur du Futur, il y a très clairement des gentils et des méchants. Et les gens, ouais. surtout les fans, surtout les jeunes, assimilent beaucoup les acteurs aux personnages.
Ouais.
Donc Raph, ah, c'est le pote, on va le chamailler. Oh, le visiteur, ah, on va parler comme lui. Et Léonore, elle avait un rôle de méchante.
Ah
et bon, donc,
on m'emmerdait pas.
Genre, ouais.
Non, mais souvent, c'est « Ah, en fait, t'es sympa ». Encore aujourd'hui, c'est « Ah, ça fait drôle de l'avoir là-dedans, sympa », alors que c'est vraiment une salope, quoi. c'est fou, quoi.
Mais ça, c'est un truc que j'ai vu. Déjà, quand on a fait la saison 4 de Visiteur du Futur, où, spoiler, ton personnage meurt, c'était à la fois génial et gênant parce que les gens ont applaudi.
Bah oui, parce que c'est un personnage qu'on
mais ça c'est un truc que j'ai
c'est
revu
c'est une connexion énorme avec le spectateur
oui.
quand ça arrive.
Mais c'est un truc que j'ai revu quand j'ai vu des tournées musicales à Londres, à Broadway. Quand tu vas voir le Roi Lion, à la fin quand les acteurs y passent, l'acteur qui fait Scar, il arrive et tout le monde fait ouh. Et lui il fait il joue le jeu, tu vois.
Il joue le jeu.
Si c'est le mec,
je sais que c'est Scar que vous critiquez.
Voilà, tous les soirs le mec il se donne à fond et il se fait huer. Et il est en mode ouais. Yes!
J'imagine le gars, imagine à chaque fois, au fond de lui, c'est un bébé qui
pleure. Ouais, mais putain, mais les gars,
je voulais juste acteur, je voulais être aimé, moi!
Donc faut vraiment.
Je voulais faire Simba!
Donc à chaque fois, je me rappelle, je me suis dit, tiens, c'est fou comment Lolo, elle arrive à faire la part des choses, tu vois. Mais en même temps, à kiffer.
Mais c'est jouissif, ouais. Tu vois. Là, il y a un vrai kiff à jouer, c'est tellement ouais. loin de toi. Enfin, ça, c'est tellement loin. Donc là, il y a un vrai kiff.
Des fois, je me permettais d'écrire des trucs, je me dis, putain. Tu vas m'en vouloir, qu'elle se permette autant de choses. Et te dire, oh, ça c'est bon, ça j'aurais bien aimé faire ça dans la vraie vie, tiens.
Voilà. Je suis pas si gentille.
Il y a vraiment un créneau pour les conventions geek qui mélangent culture japonisante, jeux vidéo, culture YouTube, les clubs Dorothée. Donc ça nous arrivait de manger des sandwichs à côté des musclés des clubs Dorothée et d'acteurs de Stargate, tu vois. Et ça c'est normal. Et de Passepartout, qui était souvent là. Donc ça c'est un truc dont même c'est rigolo de pouvoir ouais. vivre ça quoi, d'être avec des ricains, d'être il y avait Scully un moment, Scully de It's Fine à côté des ouais. musclés quoi, dans la même salle, et MacGyver tout gros, donc voilà, donc ça c'est génial, rien que pour ça c'est cool.
Mais moi je connaissais pas tous ces trucs là, j'ai
toi,
vraiment
Lolo,
découvert
ouais.
ce milieu et
ouais,
je me
souviens
les premières
ton...
fois François,
je vais t'expliquer
parce
tout
que, vraiment je pense on y retournerait aujourd'hui, ce serait pareil. Chaque personne qui passait, donc tu sais, t'avais les gens qui gueulent, je me brouillais gueule, mais je les connaissais pas.
Il me dit, lui c'est Antoine Daniel, il fait beaucoup de vues,
ouais,
tu sais.
Antoine Daniel, je me souviens, Cyprien Norman, mais tous ces gens là
ouais, moi je devais t'expliquer
à chaque coup.
Elle cherchait Chantal Lobby, elle cherchait Chantal Lobby partout. T'as jamais Chantal Lobby, hein. Ça, des Pascal Jean-Pierre,
ah,
des
plantée,
Kevin 3000
hein.
que je connais pas, voilà, hein. Ah, on les applaudit, hein, les Chantal.
Mais c'est des endroits où il y a beaucoup de ferveur aussi. Les gens, ils sont fans.
Ah,
ils,
ouais.
bah, ils se déguisent.
Ils sont
ouais,
à stonf.
C'est un vrai.
C'est un retour en enfance ouais. total.
C'est vrai qu'il y a vous, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient déguisés. Mais toi, c'était, des gens se déguisaient en toi, c'était possible parce que ton perso, il n'est pas.
Ah, un peu.
Ouais, oui, il y a ouais. eu. Hein.
Comment elle s'appelle la petite que j'adore?
Maëlie B.
Ouais.
Il y a des gens qui se déguisent et qui vraiment. Non, c'est ça qui est dingue, qui prennent le temps. Le mieux qu'on ait eu, c'est une famille entière. Donc les parents et les enfants, tous déguisés en personnages du Visiteur Futur. Dont il y avait aussi une petite fille déguisée en personnage du personnage de Chalsouni.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup, t'avais les petits enfants. Donc, Céline Tran, de son vrai nom, m'a dit c'est la première fois que je chine pour des enfants. Et t'avais les parents à côté qui sont en mode. Genre poker face.
Avec le père qui fait je peux en avoir.
Voilà.
Mais sur ce DVD-là.
Non, il y avait plein de trucs rigolos. Puis aussi, on a fait une web série ensemble qui s'appelle Rock Macabre, mm-hmm. qui est une comédie musicale. Et ça, qui était trop bien, c'est qu'on a pu faire une conférence musicale.
Ah, ça, c'était chouette.
Où on a fait la conférence et en même temps, on s'est dit, bah, on n'a qu'à chanter en même temps. On a pu faire les chansons en direct avec PV Nova et tout. Et ça, c'était vraiment aussi. Et Vanessa Bria et tout.
Ah, ouais.
C'était une super.
Ah, c'était la belle époque.
Voilà.
Moi, ça me manque parce que je sais pas, moi, je suis toute seule maintenant.
Tu préfères gagner de l'argent.
Mais non, mais c'est vrai, c'était un moment où. En revanche, je suis pétée de thunes. Non, mais c'était un moment où on créait à plusieurs. On était tout le temps ensemble, même avec Golden et tout. J'en parlais il y a quelques temps. Je me disais, putain, maintenant, je suis toute seule. Mon processus de créativité, c'est solo.
Bah, c'est pour
quoi.
Ça que Ken fait des émissions, c'est pour qu'on ait une occasion
de c'est vrai,
de regretter cette époque.
C'est pas de regret, mais c'était quand même chouette. La nostalgie. Il faut s'en souvenir. Ouais.
Est-ce que vous notez des idées dans vos téléphones?
Ouais. Oui.
Vous avez vos téléphones avec vous?
Ouais.
On va faire un truc qui s'appelle lecture de notes.
Oh là là, moi, heureusement, le confinement m'a pas du tout aidé. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est le concept? C'est des notes au hasard. On les lit. Si vous voulez pas les lire, vous voulez pas lâcher l'idée à $1 million, vous la lâchez pas. La golden idée.
Ouais, mais c'est le grand
dernier. Moi, j'ai honte. Ouais, c'est la honte. C'est tellement des trucs que t'écris la nuit ou tu sais quand tu les relis le lendemain, ça n'a aucun sens.
Pas noté grand chose. j'ai des jeux de mots aussi, donc ça c'est dur.
Ok. Alors, Navo, t'as quelque chose?
Mais en fait, je sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas. J'avais déjà dit genre. Mais c'est juste une idée de blague. C'est genre, dans un journal télé, si j'ai déjà dit, tu coupes. Dans un journal télé, t'as le présentateur qui dit tout de suite, on va retrouver notre correspondant à l'étranger. Et en fait, c'est vraiment son correspondant à l'étranger qui dit, cher présentateur, ici, ma mère m'a fait des gâteaux. J'ai pressé que tu reviennes. C'est son correspondant à l'étranger.
C'est marrant.
J'ai jamais dit celle-là ?
Non, tu l'as jamais dit.
Ok. Eh bien, faites-la. Faites-la chez vous. C'est parce que là, on les donne, c'est ça?
Ouais, on les donne. Bah oui, oui.
J'ai choisi.
C'est marrant.
Choisis les moins bien.
Moi, j'avais tout ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Ouais, bah la MST, elle est quand même venue avec toi.
C'est vrai.
J'ai un truc, c'est pareil, je le place dans une fiction, c'est quelqu'un qui hèle un Uber dans la rue.
Qui crie sur un Uber?
Qui hèle un Uber.
Genre, hey, Uber!
Hey, Uber! Putain!
C'est voilà. C'est une bonne vanne d'intro d'une scène des nuls, par exemple.
Voilà.
Tu vois un mec qui fait, hey, Uber!
Jamais j'arriverai là.
Éléonore, t'as des trucs? N'hésite pas, hein, vraiment, t'as pas envie de mettre les trucs?
Non, mais c'est que c'est un petit peu glauque.
Mais
c'est ça qu'on aime.
Alors, attends, moi j'ai noté.
On l'a fait avec Laura Felpin. Laura Felpin, c'était l'humanité court à sa perte. Nous allons tous mourir. Ben voilà, Laura, bienvenue dans la dépression.
Moi j'ai noté, en fait, pour pas mourir, il faut manger 3 fois par jour. Et ce traitement n'est pas remboursé par la Sécu. Et je trouvais que c'était un axe intéressant de dire c'est fou que ce soit pas remboursé par la Sécu,
j'avoue.
De manger 3 fois par jour, alors que c'est un des médicaments les plus importants de manger 3 fois par
j'avoue.
Jour.
C'est comme les fruits aussi, ça devrait être remboursé.
Voilà, défendre un peu en mode stand-up, de dire ça devrait être remboursé, sinon tu meurs.
Moi, je sors des lianes de mon corps, par le nez, le cul, la bouche. Au départ, une crotte de nez devient une liane de bois. Et c'est long à sortir et horrible, et je me demande quand est-ce que ça va finir.
Est-ce que c'est dans un cauchemar ou pas?
Est-ce que tu
ça
t'es réveillé
cauchemar
et t'as écrit cauchemar?
Et en long, chronique familiale racontée à travers une caméra.
Chronique familiale. Ah, on avait un concept
caméra,
comme ça, tu te rappelles ou pas?
Puis portable, puis Insta. La vie d'une famille dysfonctionnelle.
Génial, il y a un épisode comme ça de Modern Family, je crois.
Génial.
Où tout se passe sur des écrans, non?
Ouais, je rêve de faire en fait une sorte de chronique familiale un peu dans le style Le premier jour du reste de ta vie, qui est un de mes films.
Ouais, il est magnifique.
Et je rêve de dépeindre une chronique comme ça.
Ouais. Ça tirait bien.
Tu sais, sur des petits riens en fait, parce que finalement quand tu le racontes, mais c'est dur. Parce que quand tu pitches,
il se passe rien, mais il y a tout.
Ouais, il se passe rien, c'est difficile à.
Il s'ouvre dans un coussin.
D'en parler.
Quand elle reprend le coussin à la fin, c'est sublime ça.
Mais d'où l'intérêt de faire Genre humaine, je trouve. Parce qu'une fois que là t'en parles, les gens qui ont vu Genre humaine comprennent ce que tu vas faire. Tu vois. Je pense que si tu viens pitcher un film à la Besançon, la personne qui est susceptible de produire ton film va voir Genre humaine et va dire ok, je sais ce qu'elle veut faire.
Ouais.
Je vois son style. Je veux dire, il y a l'épisode du cancer quand même.
Ouais.
Donc tu vois, on comprend ce que tu veux faire.
On comprend un truc qui, à l'écrit, peut paraître très frontal, très glauque. Quand tu vois l'épisode, tu vois où ça va, tu vois le rythme et tu vois le... Et c'est malheureux à dire, mais beaucoup de producteurs ou de diffuseurs ont du mal à la lecture pure et dure.
C'est difficile
quoi.
De projeter.
Vous avez dû montrer un épisode de Bref.
Bah ouais, c'est personne nous parce que suivi, Bref, c'est pareil. Que...
Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Bon les gars, c'est de la merde, on va pas produire cette bouse.
J'en ai une dernière, si vous voulez. C'est une même phrase dite par deux personnes différentes, ça n'a pas le même sens. C'est si un jeune dit « Si seulement j'avais quelques années de plus, je pourrais... » Et si un vieux dit ça, c'est pas pareil. Si un vieux, une vieille personne dit « Si seulement j'avais quelques années de plus. » Je trouvais ça...
Eh ben, c'est très triste.
Ah, de plus dans les jours qui restent. Ouais. J'appelle ma grand-mère.
J'en ai une dernière, c'est drôle.
Allô, mamie ?
Vas-y. C'est drôle, non, mais c'est plus drôle. C'est un pirate qui a un œil de bois et une jambe de renvers.
Voilà. Ça, c'est le truc que j'aime. Voilà. Ça, c'est dans l'épopée temporelle.
Ça, on aurait pu le mettre.
Mais qu'est-ce que c'est ? Ça doit plus en audio, ça.
Oui,
c'est mon œil de bois.
Ting, ting, ting. Et ma jambe de verre.
L'épopée temporelle qui est disponible sur YouTube.
Mais oui.
Sur toutes les applications de podcast aussi, non ? On peut l'écouter en audio.
Sur Spotify. Sur Audible. Non, c'est Audible.
DVD, tout ça.
Et.
Je crois pas.
Je sais pas si on peut annoncer le truc qui va arriver en rapport avec l'épopée temporelle, mais il y a un truc qui va arriver en rapport avec l'épopée temporelle.
Il y a un truc qui se trame.
Voilà, ouais. Voilà.
Je trouve qu'il est assez audacieux quand même, Cyprien, de produire autant de choses comme ça.
Ouais.
Oui, non mais...
Et ça coûte un argent énorme. C'est incroyable de mettre ça au service de la créativité et du créatif.
Enfin, ouais, et de pratiquement tout ce qu'il a fait, c'est gratuit. Mmh. C'est pour tout le monde.
C'est gratuit.
C'est sur Internet, c'est sur YouTube. Il a cette culture de... Il vient de là, donc il se dit, bon, bah, faut que je continue à alimenter ça. Quoi. Donc, c'est...
On passe à un petit jeu ?
Ouais.
Oh, on va jouer ?
On va jouer au Multi-Blind Test.
Oh !
J'adore être un peu agressif quand je fais multi-blind test.
En fait, c'est cool et c'est triste que quand tu le fais à la fin, parce qu'il y a des gens moi, qui m'ont dit « Ah non, ça s'arrête trop vite, je voulais que ça continue. »
De quoi donc ?
Parce que tu sais, on est en train de parler, à un moment tu fais « Et voilà, c'est la fin de cet épisode, et voilà, merci à tous. » Et vraiment, des gens m'ont dit « J'aime pas quand il fait ça. Je suis là, je suis bien, on passe un bon moment, et tout d'un coup, et voilà !» C'est vraiment comme si tu partais dans une bonne soirée et tu fais « Bon, bah c'est pas ça, moi j'y vais. » Tu sais, les gens qui te font ça, des fois tu prends un verre avec eux, ils font « Putain, il est déjà 16h, ils partent. » Passer un bon moment.
Qu'est-ce que le multi-blind test, Navo ?
Le multi-blind test, je vous envoie 6 chansons en même temps et il faut les trouver. La première que vous trouvez, je l'enlève et
il faut
ainsi
dire
de suite, donc
artiste
ça devient de plus en plus facile.
Un des deux.
Un des deux, d'accord.
Artiste, titre ou d'où ça vient. Tu vois, si par exemple tu dis je le connais d'un film, tu peux dire le film.
Okay.
Et qui joue ? Toi, tu joues ?
Bah, bien sûr, je ne connais pas les chansons.
Non, mais on est... Chacun pour nous,
chacun pour soi.
D'accord.
Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est
passer
un bon
moment.
Vous voulez parier quelque chose ? On peut parier si vous voulez.
Un t-shirt bloqué.
Avec grand plaisir.
Okay. Ah bah, comment tu vas faire pour lui en donner un si c'est lui qui gagne ?
Je vais l'acheter sur la boutique, comme un connard.
Sur une bonne boutique.
Belle arnaque. Voilà. Je t'ai bien fait avoir.
Tout l'énergie des séries, pas sur une bonne boutique.com, allez-y.
Alors, je teste.
Vas-y, c'est parti. Eminem.
Attends, là, il y a 6 chansons.
Il y a Eminem.
Mais
il y a Eminem.
Il y a Street Fighter.
Il y a...
Il a même reconnu le morceau. C'est bien.
C'est le morceau qui s'appelle Na 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 If You Won, What Happened to Unity.
Lose Yourself, ça ?
Ouais.
La carioca, elle est nulle. En hommage, je l'ai mis parce que je savais que t'adorais Chantal Lobby. C'est pas du tout un hasard. 6, 5, 0.
Que cherchons-nous vraiment dans ce vacarme ? Je sais bien que, malgré ce brouhaha, aucun son ne parviendra à combler le vide de ma solitude.
Ah, il y a un Rolling Stones. Rolling Stones.
Il y a les Rolling Stones.
Il y a un truc de rock'n'roll très connu.
C'est quoi ? I Can Get No ?
Ouais, Satisfaction.
Un truc de Dirty Dancing, non ?
Ce qui nous fait 10-5-0, puisque c'est lui qui voulait compter les points. Nous, on était partis pour jouer. Il a dit, attends, ça marche comment les points ?
Ah.
Ok, c'est parti. Il y a une musique cubaine, visiblement, mais...
Ah, couleur café.
Couleur café.
Ah, couleur café.
Le live de Gainsbourg.
Enfin, je veux dire, ils en ont...
Il en reste plus que deux.
Plus que deux.
Est-ce qu'on dit qu'il faut trouver les deux en même temps ?
Ouais.
Donc, on peut parler que quand on a les deux.
Ah, ça y est. Bose. C'est Madame Bain au lycée Paul Bert à Saint-Mandé, c'est ça ?
Ah putain. Je crois qu'il était pour moi, je suis la merde, il s'est foiré.
Attends, mais là, t'as appelé qui?
C'est un choc mental.
T'as appelé Florent?
Je sais pas.
Ah, t'as appelé Florent.
Putain.
C'est qui, madame quoi, madame?
Non, c'était
madame. C'était madame Bain.
Mais non, mais vraiment.
Alors, qui était madame Bain?
Mais surtout que.
Putain. Mais c'est quoi la chanson de madame Bain?
Mais non, c'est il a sorti un dossier
un
de
choc mental.
Ah oui, d'accord, qui a rien à voir avec.
C'est le c'est...
Revoyons au ralenti le la compréhension tout de suite.
Il était en mode non, il est nul, je vais. Après, je vais. Oh, putain.
En plus, tu l'as fait en déviation, ce que tu me l'as dit à moi, et ça avait le ton d'un choc mental. Et je disais, mais il s'est trompé. Quelqu'un lui a menti. Je me suis dit, quelqu'un a dû faire une blague en lui disant un nom que je connais pas. C'est toi.
Non, j'ai tiré, mais comme ça.
Ouais, et ça fait.
C'était notre maîtresse en CM1, elle, Florent.
Elle est morte, en fait. Je sais qu'elle est morte, on a pris des nouvelles, elle est morte.
Mais on arrive à un âge.
Il attend sa réaction.
On arrive à un âge où nos profs avaient 58 ans quand on les a connus. Aujourd'hui, c'est très compliqué qu'ils aient 94
ans. Attends, c'est pire, c'est que en fait, tes profs, tu te rends compte qu'en fait, ils avaient 28.
Ouais, ça c'est sûr.
Ouais, ça m'est arrivé.
Moi, j'ai des profs et je me dis, mais en fait, pour moi, c'était une madame, mais elle avait genre 24 ans.
26 ans, ouais.
C'est une gamine maintenant. Quand je vois une meuf de 26 ans, je dis, attends, elle commence. Elle se cherche un peu dans la vie. Tu vois, il y a un truc par rapport à une vieille dame.
J'avoue, mais j'avais ma prof de français qui commençait, c'était sa première classe.
Ouais, donc c'est genre 23.
Troisième, donc j'avais quoi? J'avais 14 ans. C'était J'avais 14 ans, donc j'ai 38, ça fait 24 ans. Donc là, maintenant, elle avait 26 ans, quoi. Elle a 50 ans, quoi.
Elle a 50 ans.
Ouais, dans 10 piges, elle est à la retraite, quoi.
Ouais, mais elle était pas du tout.
Elle a passé ce vortex de vie à éduquer les gens.
Ouais, mais ouais, c'est surtout le fait de me dire, en fait, c'était des gens de plus jeunes que nous maintenant. Dans ma tête, ils sont vieux pour toujours.
Elle avait des problèmes de jeune de 26 ans. Ça se trouve, son mec l'avait largué ou genre elle était là.
Quand j'ai eu des potes profs, je me suis dit, mais en fait, c'était marrant. C'est comme ma prof, en fait. Elle avait le même âge. Et je me disais pas du tout qu'elle avait une vie. Mais c'est un truc qu'on avait noté, d'ailleurs, je crois.
Ouais, c'est possible.
Je crois que c'était un truc pour bref, mais qu'on avait jamais mis. Dire, dans ma tête,
c'est bizarre de croiser un prof de sa prof dans
un supermarché. Il croise sa prof au supermarché. Et après, il dit, alors que dans ma tête, ça se passait comme ça. Ça sonnait, dring, tout le monde partait. Et après, elle rentrait dans un placard et elle refermait le placard. tu disais pas, elle a une vie en dehors de l'école. Les deux d'un coup.
Ah, mais j'en ai qu'un.
Ah ouais. Bah ouais, il faut les deux d'un coup, mon gars.
Oh, ça va être long. Aïe, aïe, aïe.
Ouais, bah oui, aïe, aïe, aïe.
Vous l'avez dit déjà, les
quatre filles? Non, on l'a pas dit, mais il faut attendre le deuxième.
Ah oui, hein.
Bien, stop.
Charleston.
Ah là, je le monte un peu.
Pardon.
Attends. Moi, je dirais, il y a un James Brown et un...
Elle est corsée.
Ah, c'est bon, je l'ai. Mission impossible, les Jacques Dutronc.
Ah là, je disais quelque chose.
C'était la question à 23 points, donc c'est toi qui as gagné finalement.
Bravo.
Bravo, tu as gagné un t-shirt bloqué. Tu veux un t-shirt bloqué, tu veux un t-shirt bref, tu veux un t-shirt Serge Lemito, tu veux quoi? Tu veux un print, un truc que tu puisses accrocher dans un cadre? Tu veux des mugs à un bon moment?
Attends, mais tu parles comme si t'avais une boutique.
J'ai une boutique, ils appellent uneboutique.com.
Franchement, je veux bien un mug. Ça, c'est un truc que je
veux. Grand
moi aussi, je veux bien un mug.
Ouais,
la dernière fois, tu m'as dit non, il n'y en a pas encore pour le moment, les laisser pour le décor. J'étais là, bah, quand même, je suis
quand même
je suis dans l'émission, quand même.
Je suis un protagoniste quand même.
Je suis sur le mug en plus. Il y a quand même ma tête dessus.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Eh ouais.
Bonsoir.
Changement de...
Absolument.
Est-ce que c'est important d'être triste pour créer?
Ah.
Non.
Pour moi, c'est important d'être profondément triste pour créer, mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être triste sur le moment pour créer.
Voilà, c'est exactement
ça. La différence.
C'est-à-dire que c'est parce que je suis triste de base que je suis créatif pour ne pas mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment de créer, j'ai besoin, je ne dis pas, vite, quitte-moi, il faut que j'écrive un film. Tu vois.
Oui, l'écorché vif qui est en studio et qui écrit ses chansons ou qui écrit ses romans.
Mais par contre, je pense que ça repose sur une tristesse initiale.
Parce que tu as été
triste.
Sinon...
Peut-être une lucidité, peut-être.
Une lucidité.
Peut-être. C'est ça qui rend triste, la lucidité, peut-être, non ? Eleanor Coste, qu'est-ce que vous en pensez, Eleanor Coste ?
Je me bats en ce moment pour me dire non, tu peux créer en étant heureux, mais ça repose sur une tristesse, en effet, peut-être passée, une tristesse profonde que tu vas puiser dans cette tristesse, peut-être, c'est vrai, pour créer un peu. Mais en effet, tu peux être heureux sur le moment.
Mais c'est vrai que peut-être pour le stand-up, c'est peut-être différent. Là, par exemple, un de mes comiques préférés, c'est Patton Oswalt.
Okay, bah, désolé, allez, salut, bonne soirée. Ouais,
à côté de Ken Kojandi.
Ah, ok. Voilà. Un des comiques anglophones.
Écrit par
Nago. J'aime beaucoup Patton Oswalt.
Et en fait, il a fait son avant-dernier spectacle, il est très bon parce qu'il parle notamment du fait qu'il a perdu sa femme. Et son dernier spectacle, il parle du fait que tout va bien dans sa vie, qu'il est content. Et c'est un des moins bons qu'il ait fait. Mais on est content pour lui quand même.
Ah d'accord, donc c'est plus le gars que tu kiffes écouter.
C'est pas celui... en fait, c'est marrant parce qu'il explique que quand il était jeune, il était énervé contre tout. Du coup, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il faisait des sketchs sur le fait qu'il parle de Star Wars, il parle des trucs de geek, il était méga vénère. Là, maintenant, sa vie est cool, et il parle de sa fille, etc. Et il a des problèmes, on va dire, moins graves dans son dernier. Et du coup, c'est moins drôle, mais... C'est pas grave pour autant, c'est-à-dire que vraiment, c'est un gars qu'on aime bien, il a fait des trucs super, il reste drôle. Et donc,
Patton Oswalt, drôle à 80%, c'est déjà beaucoup plus drôle.
Exactement. Voilà, donc du coup, moi je préfère des fois voir des gens heureux plutôt de me dire, putain, il faut vraiment qu'ils passent par, faut qu'ils aient des deuils et tout pour être des bons artistes. Ça, c'est horrible de dire ça.
Ouais, mais ça veut dire qu'il y a des gens, on dirait, ils ont été sacrifiés. C'est limite des messies, par exemple, dans la musique.
Ouais.
Genre Amy Winehouse, qui voudrait sa life ? Ou Michael Jackson, tu vois, qui voudrait son enfance ? Mais en échange, ça fait t'écoutes de la bonne musique. Donc, est-ce que le deal de dire, tu veux qu'un enfant qui se fait martyriser aille bien ? Tu dis, bah oui, forcément. Ok, alors il n'y a plus de Michael Jackson. Attends. Attends, parce que j'ai un mariage. Tu vois, il y a un truc genre, tu vois, il y a mon anniversaire samedi. Il y a quand même le truc de. Quand tu dis, je suis content de voir quelqu'un qui va bien, si, on n'en sait rien, mais si Patton Oswalt était marrant parce qu'il allait mal, t'es content de voir quelqu'un que tu connais parce qu'il a été triste aller mieux.
Après, je suis content de voir quelqu'un utiliser cette tristesse et en faire quelque chose de beau. Tu vois, donc, c'est-à-dire que là, c'est positif, tu vois. Mais de se dire que il faut être triste voilà, pour produire des choses de qualité, etc. J'espère pas, quoi.
Est-ce qu'on parlerait pas un peu d'un décalage aussi ? Le fait d'être jamais dans l'instant présent, d'être toujours dans une sorte de « ça serait une bonne histoire ».
C'est ça le problème, en fait.
Ça empêche d'être heureux. C'est pas être malheureux, c'est s'empêcher d'être heureux à vivre des moments...
Exactement, tu n'es jamais dans l'instant... Quand tu es dans l'instant présent, tout de suite, tu as envie de le transformer en matière, et tout de suite, et du coup, c'est terrible.
Ouais,
tu
es dans l'over-analyse.
Ouais.
Mais est-ce que c'est ton cas, François ? Parce que tu dis « je crois pas que... » Mais est-ce que toi, tu dirais que c'est marrant ? Parce que décalé... pas super content de la vie, ou toi, tout roule, t'en bats les couilles, t'écris et tu kiffes. En plus, c'était un truc d'amusement quand t'étais petit. Donc,
voilà, c'est ça, c'est que j'essaye, justement, ça me rend heureux d'écrire. Enfin, j'aime pas l'activité d'écrire, personne n'aime vraiment, je pense. Taper sur l'ordinateur, c'est chiant, mais imaginer des choses, c'est trop bien, quoi. Là où je suis malheureux, c'est quand j'ai l'impression que j'ai des super idées, mais j'arrive pas à les traduire ou à les rendre cohérentes. C'est ça qui me rend plus malheureux, c'est de voir ma propre minorité, en fait. Me dire, putain, si j'étais plus intelligent, plus fort, ça irait plus vite, et j'aurais plus le temps pour... Je pourrais écrire plus vite et plus jouer à la PlayStation après, tu vois.
Frustration d'écrire, ouais. De
me dire, putain, je suis tellement lent, putain, ça prend tellement de temps. Et à la fin, quand j'y arrive, je me dis, mais c'est tellement... J'ai l'impression que j'ai mis une semaine pour ça. Alors, ça paraît évident. Je suis nul, tu vois. Et ça qui
t'as mis 8 mois derrière à réfléchir à cette semaine.
Voilà. Exactement, donc c'est cette notion de temps, de réflexion qui est
mais
dans l'écriture qui est compliquée.
Mais est-ce qu'il faut être triste ou avoir été triste pour écrire ou pas, selon toi ?
Je pense qu'il faut avoir vécu. quand même.
Oui, voilà. C'est
compliqué de décrire des émotions, des expériences par procuration. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément vivre tout ce que tu écris, parce qu'il y a des gens qui écrivent des histoires.
Il y a des acteurs de génie à 18 ans qui font
voilà,
des trucs de fou. Quand
exactement.
Même.
Et ça me fascine. Genre Paul Thomas Anderson qui fait 25 ans ou 26 ans Magnolia.
Mon film préféré en plus.
Voilà. Tu vois, et donc, du coup, tu te dis, mais comment il connaît tout ça? Il y a tellement de personnages dans Magnolia différents de lui. Comment il sait tout ça à cet âge-là, quoi?
Et... Il avait 25 ans quand il a fait Magnolia.
Enfin, il était très jeune, ouais.
Parce que un producteur lui fait confiance.
Ouais, déjà. Ouais. Bon, ça aussi. Et ça me fascine. Les gens qui arrivent à extrapoler à partir
Will
de
Hunting.
Trucs.
Will Hunting, qui est ouais. un des meilleurs films du monde.
Ouais, ouais. Ils étaient hyper jeunes.
Ils ont 25 ans quand ils fait 24 ans quand ils fait Will Hunting. Matt Damon et
Ben Affleck.
Et Bruce Wayne.
Et donc, du coup, ça me fascine parce que je dis pas que c'est facile d'écrire sa propre life et dire, bah voilà, il m'est arrivé ça, je l'ai écrit et puis voilà, quoi. Mais c'est sûr que c'est plus naturel. Alors que d'arriver à imaginer des destins de gens qui ne te ressemblent pas du tout et que ça paraît crédible, ça, pour moi,
genre,
c'est...
Genre, toi, tu as voyagé dans le temps.
Oui, c'était un peu mon quotidien pendant longtemps.
Okay.
Voilà, mais autant l'utiliser. Quoi.
Raconter la vie de tous les jours. Quoi.
Voilà, c'était, pour moi, c'est un documentaire, je trouve pas ça formidable.
Non, après, je pense qu'il y a un instinct de survie aussi à quand on est malheureux. Des fois, on projette des idées tellement intenses. C'est un peu comme, tu sais, les gens qui décrivent j'étais en état de coma artificiel, j'allais mourir, et moi j'ai vu mon corps sortir de voix. Et je crois qu'il y a un instinct de survie aussi quand t'es très malheureux, des fois, de projeter des histoires. Je me rappelle quand j'ai eu un déclenchement de dépression, par exemple, je sentais que je tombais complètement. Et les seuls moments où j'arrivais à être heureux, c'était quand j'écrivais des histoires. Ouais. Genre, ce serait marrant de faire une blague comme ça. Et après, j'ai genre. Et toujours, tout était détruit dans ma tête. J'étais malheureux. Mais le seul moment où et donc je mettais tellement de force dans ce moment-là, tellement d'intensité à être juste bien, juste à être pas d'émotions négatives, que j'y mettais énormément d'énergie, quoi. Donc ça se trouve, il y avait une sorte de projection d'instinct de survie assez, assez étrange.
Il y en a qui le font autrement, il y en a qui le font en faisant des meubles. C'est-à-dire que c'est une façon de créer. Ça peut prendre plein de formes. Bien sûr, ça peut prendre la forme de films, de séries, parce que nous, on est là-dedans. Mais ça peut prendre la forme à plein de niveaux dans la vie, de trucs qui sont moins peut-être artistiques. Ça peut être là en ce moment tu regardes la chaîne YouTube de David Lynch, qui est un de nos réalisateurs préférés. David Lynch, il fait des tables entre deux séries de films.
Il fait médite quoi.
Et il fait de la méditation, il fait des tutos méditation, il raconte le temps tous les jours. Il fait aujourd'hui, il fait soleil. C'est sa chaîne YouTube. C'est tous les jours il fait une vidéo, il raconte le temps qu'il fait au-dessus de lui, tu vois. Et il fait des tables et des meubles. Et quand on lui dit, alors c'est quoi votre nouveau projet? Un nouveau film peut-être? Un festival
un
de
Cannes? Un tabouret.
Et vraiment, je te jure, il dit. Une
gigogne.
Mais c'est pas une blague. Il dit, je suis en train de faire les tiroirs de ma nouvelle table et tout. Et pour lui, c'est aussi bien que quand il fait un film ou un tableau, quoi. Pour lui, c'est au même niveau, quoi. L'important, c'est que ça sorte, quoi. Donc, faut pas forcément se dire. Si tu fais pas Citizen Kane, si tu fais pas.
Mais quand il ouvre le tiroir, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le tiroir, la poignée s'arrache, elle te parle, elle pleure.
Ah, voilà. C'est un autre tiroir qui s'ouvre.
Voilà, c'est bien en noir et blanc. Tout, il y a un son de l'enfer qui arrive.
C'est tout bien noir et blanc. Voilà. Cringe comme ça.
Ça doit être ça, le tiroir de David Lynch. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a cette phase.
Je pense qu'il y a un autre meuble, il y a un autre tiroir. Non. Quand tu ouvres un tiroir.
Il y a un autre tiroir.
Il y a un autre tiroir.
Et après, dedans, il y a toi.
Il y a toi. En train d'ouvrir un tiroir.
Petit. Regarde sur la porte.
Et là, tu lèves la tête. Tu te vois. Tu me suis.
Toi, dans 60 ans.
Mais voilà. Donc, il y a quand même une phase. Et c'est pour ça qu'on dit les clowns, les gens qui rigolent, c'est des clowns tristes des fois et tout. Je pense que tous les créateurs se soignent un peu, se curent un peu.
Là, tu penses que tous, parce que moi, on m'a souvent dit arrête avec ton cliché de croire que tout le monde est comme toi.
Je dis pas que les artistes.
Pas mais moi, on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit arrête, c'est bon, c'est pas parce que toi, t'es en dep que tout le monde est en dépression.
Non, je dis juste qu'il y a une face noire, une face un peu sombre.
Ouais.
Tu vois, alors tout le monde a cette face un peu sombre.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus appuyée chez les gens qui ont besoin de l'extérioriser.
Mais à l'opposé, dans les films d'horreur, je pense que ça vient des fois de peur que tu mets. Mais par contre, quand tu fais un film d'horreur, ça, c'est très joyeux, un tournage de film d'horreur.
Ah ouais?
Les gens sont très... Justement,
ils rigolent beaucoup.
Tout est un peu décomplexé, tout est un peu ridicule.
Ouais.
Les monstres, ils sont en carton, ils ne te font pas forcément peur. Tu vois, toi, bon, je sais, tu n'as pas aimé le film, enfin, l'épisode que j'ai fait.
Non, je n'ai pas aimé. Je ne peux pas le regarder parce que j'ai peur, mais je trouve ça super.
Mais c'est pas
de faire ça.
Quand je t'en ai parlé, elle a vu au cinéma. On le raconte ou pas?
Oui, il n'y a pas de problème.
Elle m'a fait le meilleur compliment qu'on puisse faire quand on fait un truc d'horreur.
C'est vraiment la honte de ma vie.
Mais tu le racontes ou pas?
Mais oui.
Ok. En gros,
j'espère qu'elle s'est chiée dessus.
C'était à deux doigts.
Non, j'exagère, pas de ma vie, mais c'était un peu honteux quand même.
Mais en gros, j'ai fait une série qui s'appelle Dark Stories avec Guillaume Lubrano. Et à un moment, ça commence par mon épisode, il s'appelle Bouddha. Et dans les 5 premières minutes, on voit juste un truc, une créature au loin qui s'approche. Et, voilà, ouais. Et là, il y avait dans la salle, puisqu'on était dans une salle de projection, elle s'agite à côté. Et je la vois, je peux pas. Et je fais yes. Quoi?
Et après, j'ai commencé à chialer, enfin, ça n'allait pas du tout.
Et après, elle s'est levée. Elle est partie, elle m'a fait « Je suis désolé François, mais je peux pas. » Elle était en larmes et moi, j'étais en mode « C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. »
Au milieu de la rangée, tu sais, elle a demandé à tout le monde de se lever.
Et c'est vraiment l'équivalent de « Tu tournes un porno et le gars te dit « Je bande. » Enfin, je peux pas, je bande.
Super. Yes, super. Et après, j'arrête pas de lui dire « Mais tu sais, le monstre, c'est un... je devais te le présenter, l'acteur, il est sympa.
» C'est
un masque, c'est un masque.
Voilà,
tu vois, je voulais
mais essayer, au-delà du monstre, l'actrice
Tiffen,
elle joue très bien.
Bah ouais.
Et en fait, le truc, c'est que je ressens beaucoup les émotions quand je regarde un film, je suis très impliquée. Ouais. Et en fait, dès le départ, elle suffoque.
Bah, et ce qui est intéressant, c'est que quand on tournait les séquences, Tiffen, elle passait de « Waouh, waouh !» à « C'est bon, elle est bien, okay, on la refait. » En fait, elle arrivait
elle était complètement détachée.
Totalement détachée. Ouais. Moi, j'avais peur qu'elle soit un peu traumatisée, ouais, qu'elle soit... Ouais. En fait, pas du tout. Parce que pour elle, c'était tellement, on va dire, des émotions très fortes, mais très...
grotesques.
Grotesques, un peu surréalistes, qu'elle pouvait passer des hurlements, des larmes, après à faire une blague, parce que le gars qui était en costume, on voyait ses couilles à un moment, et tout. Donc, tu fais, oh, bah, tes couilles, et tout. Donc, c'est ça qui est génial dans un tournage de film d'horreur, c'est que t'as les émotions contradictoires au même moment, quoi. Et peut-être pour une comédie, ça doit être compliqué sur une comédie où t'as une sale ambiance, tu vois.
Ah, c'est super dur. Ça se voit de toute façon, ça se voit direct. Ouais. La comédie marche pas.
Bah ouais, c'est pour ça. C'est, on est tous réalisateurs, donc c'est ça qui est intéressant. C'est de que le métier réalisateur, c'est pas que le technique.
Non.
Toi-même, tu sais, c'est ça. C'est créer une ambiance de, un cadre de travail serein, cool, où les gens savent ce qu'ils font. Voilà, c'est pas que savoir les termes techniques. C'est aussi mettre en confiance les gens et
les techniciens aussi.
Les techniciens, pas que les comédiens. Oui. Et donc si tu arrives déjà à être quelqu'un avec les gens ont envie de travailler, déjà, t'as des styles de réel déjà. D'être quelqu'un qui fédère une bonne ambiance, tout le monde ne l'a pas.
Et en tant que comédien, forcément, tu te dis, il n'a pas l'air très confiant dans son truc là.
Ouais, ça fait flipper.
Hein. Ouais. Tu peux te permettre d'être un méga connard si t'es James Cameron, tu vois. Le gars,
il a ses inquiétudes. Je pense que c'est enfin, je le connais pas, mais je connais pas non plus. Je crois qu'il
attends,
est dur,
James.
Attends,
j'ai passé les vacances avec lui.
Il est dur parce qu'il il connaît tout pour le coup. Il connaît le métier de tout le monde. Il est le meilleur technicien sur le plateau.
L'ambiance est beaucoup plus importante que tout dans un projet parce qu'il y a rien de pire. En plus, il y a un truc, c'est que beaucoup de gens se servent de ça quand tu commences. C'est que tu te dis j'ai de la chance de faire ce métier, donc t'acceptes l'inacceptable, t'acceptes des trucs vraiment nuls, des ambiances pourries. Et après, ça te dégoûte quasiment de ce métier. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont montés à Paris, qui ont fait des trucs, qui ont rencontré des gens lamentables. Ils ont dit, tu sais quoi, je retourne chez moi. C'est terminé, je veux plus entendre parler du showbiz. Et il y a aussi, à un moment donné, tu crées carrément tes îlots. Donc, nous, on a carrément créé nos tournages à nous, nos projets à nous. Et ce sera notre ambiance à nous, quoi.
Bah, c'est ça qui est intéressant quand tu deviens réel. C'est que même s'il y a des trucs très récurrents sur différents tournages, il y a des protocoles, etc. Mais au final, tu crées ton protocole aussi à toi. Tu crées ta façon de travailler, tu crées ta relation avec le chef-op, les comédiens. Tu n'es pas obligé de faire comme un autre tournage.
Mais du coup, tu disais que James Cameron, c'était un gros bâtard. Mais il était relou. Mais c'est vrai qu'il a décidé, alors.
En fait, c'est juste que...
C'est son choix d'être un connard, en fait. Parce que là, il ne sait pas, il est stressé. Tu vois, quel est le...
C'est parce que le gars est tellement pointu en technique surtout qu'il peut vraiment faire le taf de tout le monde. Alors qu'un réal n'est pas censé être meilleur chef-op que son chef-op.
Ah, mais il a raison alors. Si en fait, quand les gens disent qu'il se comporte mal, c'est qu'en fait, il dit écoute-moi bien.
Voilà, c'est un peu ça.
Espèce de petit malin.
Non, mais il ne fait pas
c'est
ça.
C'est pas
pour...
vrai parce que tu peux faire ça et ça et ça.
Mais parce qu'il a le talent qu'il excuse un petit peu. Par contre, il y a des gens, des réalisateurs, ça j'en ai vu, qui se disent ok, si je suis réalisateur, il faut justement que j'ai une poigne de fer. Et donc, pour rien. Et pour montrer que j'ai de l'autorité, il faut que je dise non.
Ah oui, ça c'est l'extrême.
Les moi, pour moi, ça c'est les middle.
vraiment, à chaque fois,
moi en tout cas, la règle générale qui se dégage, c'est que les gens, quand ils commencent, ils sont cool.
Ouais.
Quand ils sont arrivés, ils sont cool. Après, il y a des exceptions.
Ouais.
Et c'est ceux qui sont au milieu.
Ouais.
Tu sais, ils viennent de monter un step et ils se disent maintenant, il faut que j'ai l'air d'être James Cameron.
Ouais.
Parce que je me sens pas James Cameron du tout.
Ouais.
Et que donc, tous les artistes, enfin, tous les comédiens, tout le monde va me respecter si je leur gueule dessus et si je leur parle mal, parce qu'ils vont se dire. Attends, s'il parle aussi mal, c'est que ça doit être un sacré génie.
Ouais, mais c'est un peu ça.
J'ai remarqué que c'est pas forcément les meilleurs qui sont désagréables, quoi.
Ouais, et que des fois sur un tournage, même si en tant que réalisateur, tu es censé répondre à des questions, c'est aussi bien de dire, écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Et c'est pas un signe de faiblesse, mais au
contraire, c'est un signe d'intelligence, signe d'être un vrai leader.
Ouais, de demander l'aide de gens qui sont plus compétents que toi, ou et surtout les comédiens, c'est-à-dire que Moi, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure dans la direction d'acteur, c'est de, d'écouter le comédien, ce qu'il propose, avant de lui dire « non », tu vois. Ça te, de pas dire « ok, on y va, action », et dire « coupé ». Non, c'est pas ça, tu vois. Ça, tu laisses au moins le temps de faire ce qu'il propose.
Là, tu laisses le temps de déstresser.
Voilà.
Tu laisses 3-4 prises pour au moins...
Voilà.
Tu comprennes un peu où il arrive. Voilà. Encore. Et après, tu lui dis « bon, ok, on te recadre un peu, ouais. Tu donnes plus d'ordre, quoi ».
Voilà, parce que c'est...
Pour moi, la vraie force, c'est après. C'est si par contre, c'est de la merde, parce qu'il y en a aussi qui ont le problème inverse, c'est qu'ils sont trop gentils. Ils sont là, oui. Bon, bah ok, on la garde comme
oui,
ça.
Oui, ouais. Ils sont écrasés. Ouais.
Faut aussi savoir dire « non, c'est pas ça ouais. ». C'est ta proposition est cool, mais en fait, ça marche pas du tout. Est-ce qu'il se passe avant et après ?
Alors, c'est super. J'ai adoré. On l'a.
Voilà.
On a cette
on en
prise.
Fait pour moi.
On voilà. A eu cette prise. Mais maintenant, est-ce que je...
ouais, ouais,
on d'accord. Va aller tu ouais, vois, ouais. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que quand t'es acteur, t'es perdu sur un plateau. Bah, personne te dit c'est bien. Même ta boîte avec confirmé, il faut que quelqu'un te dise c'était très bien. Faut juste un.
Ouais. Mais sur notre tournage, ce qui était difficile pour toi, c'est que tout le monde était masqué. Du coup.
Aucun sourire.
Ouais.
Ah ouais.
Du coup, moi, comme ça. Tu vois, moi, j'étais, je souriais des fois en mode, ah, c'est marrant ça, mais va le voir quoi, que je souris. Et du coup, à chaque fois, c'est chiant pour les comédiens parce qu'ils disent, ok, bon bah a priori c'était bon, mais
là, c'est marrant. Non, mais c'est marrant les gars, ce qu'on fait ou pas, c'est marrant.
Ouais.
Parce qu'en plus, toi, c'est compliqué. Parce que toi, c'est comme si t'enlevais à chaque fois. Toi, parce que comme t'es réal, mais que t'es aussi tu fais de la scène. C'est-à-dire que tu peux partir dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, soit en tant que réal, les mecs qui ont fait de la scène, comprendre ce qui est en train de t'arriver en tant que comédien, soit à l'inverse, dire d'habitude, je suis en contrôle, puisque c'est moi le réal, ou j'entends des gens rire par milliers dans des grands espaces où ils sont tous réunis. Là, t'es là, tu dis ta réplique, et t'es ni le réal, tu vois, comédien pur, je pense que ça doit rendre fou quand t'es réal et mec de scène. Tu vois, quand tu dois faire. Parce que finalement, t'as pas fait tant de trucs de comédie que ça, à part avec des potes. Tu vois, tu as fait des rôles qui étaient plutôt semi-dramatiques, réalistes, etc.
Ouais, en cinéma. Ouais. Et après, il y a des gens comme Lisa Azuelos qui te dit, bah, vas-y, allez-y, faites la scène. Ah, c'est top, ça c'est bien, ça, c'est top. Ouais, on fait ça, vas-y.
Moi, ça me rendrait fou, je pense, si je suis comédien réel. Ouais, ouais, moi, donc j'ai l'habitude d'écrire mon truc, de le réaliser et d'être dedans.
De quoi, de laisser les comédiens proposer ?
Non, mais j'aime bien, moi, avoir un réalisateur, réalisatrice qui dit ouais c'est oui proposer
il dit allez-y ah ouais ça voilà. c'est bien il y a
mais
une base.
C'est agréable aussi d'être très cadré, de dire je veux exactement ça. Moi, je trouve ça plus reposant.
T'as moins de stress.
Ouais, t'as moins de stress.
Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu à base de porno ?
Je préfère un jeu avec du sport, moi.
Ok. On peut faire les deux, alors.
Ouais.
On va faire un jeu qui s'appelle le sporno. Est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est du porno ?
Très bien.
Et tu nous montres ?
Oui.
Tu mimes ?
Non, il nous fait écouter.
Je vous montre carrément la vidéo. Vous me dites.
Ah bah, c'est les deux.
Sporno, c'est du sport ou du porno ? Je vous fais écouter un son. D'accord. À vous de me dire si ça vient d'un truc de sport ou d'un truc de porno. Ou peut-être des deux.
Ok.
Les pornos qui se font dans le milieu sportif.
T'imagines
c'est possible
faire le montage.
C'est le step de Tiger Woods, c'est ça ?
C'est du sport, ça.
Porno. C'est du sport ?
Porno.
On repasse.
Il y a l'air d'avoir un sacré plaisir.
Un effort.
Ouais, on dirait. Ou quelqu'un qui se plaint. Tu fais genre, t'es relou. Hein.
Ouais.
Ah ouais, moi je trouve vraiment que ça fait.
Moi, si j'entends ça, je me dis qu'il y a un problème. Hein.
C'est du porno.
Mais bien sûr.
Ah, ça va pas être facile. C'est du sport.
Quelqu'un qui s'est. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui s'est cogné contre une table.
C'est du ping-pong.
Ouh, ça sent quand même la...
Moi, c'est la réverbe qui me fait penser à un porno.
Ah, là, on est sur, on est sur du l'indice technique, là.
Bah, la réverbe, je trouve que c'est une réverbe de mauvais son de porno amateur. Quoi.
Mais en même temps, dans les matchs de ping-pong aussi...
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais c'est hyper grand, un match de ping-pong. Ou alors, c'est un sport amateur, vraiment, où ils sont dans une... Parce que je trouve que la réverbe, elle est proche, non ?
Elle dit aïe.
On dirait qu'elle dit aïe, j'ai mal.
Ah, attends, non, il y a un petit bruit de mec derrière.
Moi, je pense que c'est une sodomie.
On entend Ali.
Je pense que c'est une sodomie en plus. Tu demanderas à
porno
ouais.
C'est du sport.
Ah putain.
Ah oui.
Mais c'est quoi le bruit ?
C'est quel sport ?
C'est un entraînement physique.
Bah oui, mais alors.
C'est du crossfit.
Tu fais du crossfit
J'en ai fait.
T'en as fait ?
C'est l'enfer. Mais ça pourrait être une séance de crossfit du coup.
Ça, c'est un camion.
Attends, c'est un nouveau là ?
Ouais.
C'est peut-être un porno, ça.
Ça, c'est un porno ?
Non.
Ah non, c'est du sport, ça.
C'est du sport ?
Ouais.
Ouais, du judo.
Du tennis.
C'est du sport.
C'est du sport ! Oh !
C'est quoi ?
Du tennis.
Ah, du tennis, ouais.
De femme.
Pourtant, c'est pas le bruit qu'on entend souvent, le son du tennis, c'est un peu cliché.
C'est plutôt un revers.
Ah ouais, voilà.
Je pense pas que c'est un service. Ah, bah alors là, c'est pas du porno. Faut qu'elle réfléchisse à ouais, changer de carrière. Parce que...
Nos porcs ?
Non, mais attends, parce que c'est tellement évident, parce que je le connais, Gauthier, le mec qui a fait ça.
On dirait un porno.
On dirait qu'il y a des gens, il y a du public derrière.
Il y a une ambiance, hein.
Derrière, on dirait qu'il y a des gens qui applaudissent.
Ouais, ou des sabots, comme si c'était un cheval.
Non, mais t'entends pas, hein, comme un début de gens qui vont dire ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit en arrière-plan, dans peut-être du sport.
Ah bon, allez.
Nabo ?
Allez, du sport.
C'est du porno !
Putain !
Mais c'est du porno dans une ambiance sportive.
Ah !
Ah ! C'est du porno avec. Oh du...
Ah, ça, c'est du sport.
Ah, ça, c'est du sport, ouais.
Il s'est fait plaisir, c'est vraiment que des meufs. Hein.
Attends, non, refais.
Gauthier, ouais, ouais. Est-ce que quand il t'a envoyé le fichier collait
attends,
un peu
les mecs,
Il était un peu.
Ils font pas de bruit, c'est ça ? Ils font, j'ai joui, merci.
Ouais, ils font.
Porno !
Il faut Abou.
Abou.
Faut pas.
C'est quoi ça?
Un chien qui sort de l'eau.
Je sais pas, je demandais si les mecs qui font l'amour, j'en ai pas vu beaucoup.
T'en as pas vu beaucoup, ouais.
Ils font.
Moi, j'en ai pas vu beaucoup des bruyants, quoi.
Des bruyants?
Ouais.
Ah, rigole pas. C'était du porno.
J'ai beaucoup entendu. Par un baiser.
Même elle, ça l'étonne.
Trop.
Ça, c'est quoi?
Ouais, ça, c'est du porno.
C'est du porno,
ah, oui.
Porno.
Il bah, y a un peu une intonation.
Porno
il a l'air content, il a l'air content. C'est que c'est du sport. Allez, c'est
tu
bon.
Peux remettre
sport.
Ouais, il y a beaucoup de sport. Ouais,
là, c'est les bruits derrière. C'est les bruits derrière.
Donc, c'est du sport pour toi? C'est du no porn.
Attends.
On s'en fait un dernier? Ah non, il y en a. Oui, il y en a. Allez.
Bon, bah ça, c'est du.
C'est un gars attaché dans une cave. C'est un gars
tennis.
Qui torturait.
C'est du tennis, exactement.
Ah, okay. T'entends la balle.
Ah oui, avec la balle. Ça, c'est toi, Ken.
Ça, c'est peut-être.
Rigole pas.
C'est peut-être un mec, ça.
Ça, c'est un peu le bruit que je fais quand je jouis, donc c'est possible que ce soit moi.
Ouais.
Quelqu'un t'a contacté un proche.
Un proche, exactement. Un proche. Bah,
c'est un bon moment.
C'est un bon moment, c'est ouais. Un no porn.
C'est moi, bah, ça doit être un...
Est-ce que vous avez une œuvre à recommander? Ça peut être un film, une série, un documentaire.
Ça peut être plusieurs trucs. J'ai fini récemment Upload sur Amazon.
C'est trop bien.
Ah là là. Et tu sais, je me disais, ça faisait longtemps que j'avais pas ri.
Oui, non, mais
pas,
c'est vraiment
si vous avez
drôle.
D'ailleurs, des trucs drôles, vraiment, ça fait longtemps. Ouais. Tu sais, je fais. Mais là, genre vraiment, non, les vannes sont super.
C'est très très bien.
Et puis, ouais,
c'est un Black Mirror marrant.
Un Black Mirror marrant.
Ouais, ah, c'est. Et puis c'est presque crédible. Enfin, je sais pas.
Non, c'est
et
ben
moi aussi, j'ai cru. Et franchement, c'est pas nul du tout.
Ok.
J'adore. J'adore l'héroïne. Je la trouve trop
badass. Ouais, ouais. C'est très très malin, très bien écrit.
T'adores l'héroïne.
Ouais.
L'héros, comme on dit.
Ouais. Ton côté rock.
Ouais.
Donc, plusieurs trucs, tu m'as dit. Donc, Upload.
Et un autre truc, mais bon, c'est vieux. Hein.
Vas-y.
C'est le film Patterson avec Adam.
Driver.
Voilà. Il se passe rien. Et j'adore.
Ok.
Voilà.
Tu peux nous en parler? Non, c'est dedans.
Bah non, mais il se passe. Ça parle de poésie, ça parle d'un conducteur de bus qui écrit.
Un driver.
Et c'est mon film apaisement, c'est la troisième fois que je le vois. Et en fait, il m'apaise trop parce que c'est que des trucs du quotidien. Et l'héroïne est hyper bien écrite, elle est très drôle. Parce qu'elle, elle est très en train de proposer tout le temps, elle veut tout le temps faire un truc. Et lui, il écrit des petites phrases. Patterson.
C'est un film, hein, c'est ça?
Ouais,
c'est
un film.
Où l'héroïne, genre, elle échange un bracelet en or contre une coccinelle avec Peggy Popote?
Non. Mais attends, c'est ma...
J'ai vu venir.
C'est marrant, parce que c'est ma vie, ça. Toi, j'allais dire, c'est marrant, parce que moi, c'est fou, c'est Raphaël qui t'a donné les...
Je sais pas.
C'est trop marrant qu'elle se souvienne de ça.
Bouchon. Tu veux dire bouche? Bouchon.
Putain, j'ai donné mon bracelet en or, ouais, contre une coccinelle.
Je me suis dit, mais coccinelle. Quelle audace de tenter une anecdote très précise comme ça dans un film qu'il n'a pas vu.
Mais Patterson, en tout cas, ça peut être vu comme chiant.
Ouais.
Voilà, je préfère prévenir.
D'accord.
Il faut
en
aimer
fait,
les trucs
ça
du
parle
quotidien.
De rien, donc ça parle de tout.
C'est celui qui a fait The Left... Only Love Left...
Jim Jarmusch.
Ouais, c'est lui, j'arrive pas à le dire. Et Leftovers, meilleure série pour moi de tous les temps. Mais alors
Covid.
Attends, fais gaffe.
Ouais, super.
Très dépressive.
On l'a tous les deux.
Bah oui, c'est vrai.
Alors ça te fout...
Leftovers, c'est sur quoi Leftovers? Il faut l'acheter, c'est quoi?
Bah, c'était sur OCS.
HBO, donc c'est OCS. OCS, c'est disponible sur MyCanal.
C'est sur OCS, ouais.
Donc ouais, j'en mets.
Ouais.
François Descraques.
Moi, alors c'est marrant, il y a une série que j'ai adorée. Sauf le dernier épisode, mais j'ai quand même la conseiller.
c'est Dispatch from Elsewhere, qui est la série de Jason Segel.
Ah, mais c'est le dernier. Il est...
Alors, j'ai pas trouvé ça nul. Hein. C'est juste que le dernier épisode.
On ne peut rien dire, ouais, ça. C'est qui... compliqué. Même c'est... de commencer à en parler.
Non, on ne peut pas en parler. Ouais. Mais.
Ça s'appelle comment tu dis ?
Dispatch from Elsewhere.
Je le note.
C'est une série très compliquée à résumer et qui aussi vaut le coup de ne pas savoir de quoi ça parle. Et non, j'ai trouvé ça fascinant, très bien réalisé. Et ça parle de dépression. Et en fait. Justement, alors je vous conseille de regarder parce que John Segel, qui est l'acteur qui joue dans How I Met, etc.
Mais sans Sarah, rien ne va.
Voilà, exactement.
Toi, tu vas kiffer.
Voilà. J'adore ce gars.
Dispatch from Elsewhere,
ah,
tu vas kiffer.
Ah, mais si, j'ai commencé à regarder, moi, j'ai pas réussi.
J'ai adoré cette
film. Ah, ça y est, je vois de quoi tu parles.
Bah, faut y aller parce que.
Je me suis endormie.
Ah, c'est kiffant.
Faut y aller parce que.
Mais c'est vrai, il paraît qu'il faut y aller.
Et surtout, ça parle vraiment de sa dépression et comment. En fait, il a réussi à parler de sa dépression, de comment il a eu une période où il acceptait des rôles hollywoodiens, il s'en foutait, il se répétait un peu artistiquement. Et ce projet, c'est un peu le projet où vraiment il dit « Ok, je vais faire un truc du jamais vu. »
C'est un mec, c'est l'engard, il écrit bien. Hein,
ouais, ouais.
Mais la réalisation est spéciale, c'est difficile.
Mais,
hein.
mais parce que en fait, il faut que tu rentres dedans parce que tous les codes du premier épisode deviennent de plus en plus compréhensibles dans le deuxième, dans le troisième et tout. Okay. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et
c'est Davy
qui avait beaucoup aimé aussi. Donc, je vous le conseille. Je pense que ça parlera à des gens comme nous. Ça parle de l'art, ça parle de la vie, ça parle de... et des jeux de réalité alternative. Voilà.
D'accord.
Navo ?
Amour et autisme sur Netflix.
Amour et autisme sur Netflix.
C'est un documentaire.
Ouais. En fait, au début, ça fait un peu peur parce que ça fait très bachelor. Mm. Tu sens qu'ils ont un peu les côtes et toum, toum, toum quand les gens parlent. Tu sens que tu vois, les mecs ouvrent la porte en faisant « Ah, vous êtes là !» Alors je fais « Mais non, mais le gars est déjà dedans. » Tu vois, les ambiances un peu... Mais en vérité, le fond du truc, et je pense que j'ai l'impression en tout cas que le gars qui a fait ça, il est vraiment... sur sur une envie de montrer, et en gros le principe c'est que c'est des gens atteints de troubles autistiques qui cherchent l'amour et qui donc se font coacher, font des rendez-vous.
D'accord.
Et voilà, et tu suis des gens qui du coup ont des problèmes avec les codes sociaux dans le truc le plus compliqué. D'ailleurs c'est intéressant parce que vraiment il a coach, elle raconte des trucs et vraiment j'étais là, bah dis-le à tout le monde hein. C'est les bases, mais tu dis il y a des gens ils les ont pas ces bases en date, tu vois. Alors un date, qu'est-ce qu'on cherche en premier, les points communs. Et pour moi, tu dis, oh, moi, il y a deux, trois copines, elles m'ont raconté des dates. Le gars, il n'avait pas cette base déjà. Et pourtant, il n'est pas autiste. Ou alors, il est autiste, mais il n'a pas été diagnostiqué. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est super touchant. En fait, ça te. Il y a des moments vraiment où tu te dis.
C'est un documentaire ?
Ouais, c'est un. Ça ressemble un peu à des trucs de télé-réalité, mais ça n'est
pas.
D'accord. Tu vois, c'est pas de la télé-réalité. C'est genre. On va dire que c'est un docu. C'est un docu
c'est français,
où on les
américain.
Suit. Australien.
Australien.
Et ils les suivent pour voir s'ils y arrivent, s'ils n'y arrivent pas, et quelles sont les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Il y a les parents, voilà. Il y en a qui sont déjà en couple et ils expliquent comment ça marche. Et d'ailleurs, de voir un couple de deux autistes, il y a des trucs où vraiment tu te dis, mais c'est ça qu'il faut faire dans un couple. Tu vois, il y a vraiment des moments hyper touchants. Parce que, tu vois, le gars est stressé pour, parce qu'il n'a pas ses chaussettes de la bonne couleur. Mmh. Et la meuf, au lieu de... dire, on s'en bat les couilles, c'est que des chaussettes. Elle comprend son délire, tu vois. Elle dit, attends, écoute, on va chercher des nouvelles chaussettes. C'est ton problème devient mon problème. Et tu dis, mais ça, c'est très important dans un couple. De dire, c'est pas ce qui est important pour toi qui est important pour l'autre, tu vois.
Ouais, je vois.
On va te trouver les chaussettes.
Ouais, j'avoue, c'est stylé.
Et donc, il y a tous ces trucs-là qui te font quand même aussi réfléchir sur. Et en plus, ça te donne une image moins définitive et un peu cliché de qu'est-ce qu'un autiste. Ou je dis autiste, tu penses juste à Rain Man, quoi. Donc là, tu vois une diversité, vu que c'est un spectre.
Oui, il y a vraiment tout un tas de différences. Ouais.
Voilà. Donc, amour et autisme sur Netflix.
Moi, j'ai une série que j'aimerais vous recommander, c'est Euphoria, qui est sur HBO. HBO, Euphoria, il y a un avant, un après, quoi.
Ouais.
On réalisera plus jamais.
Très épileptique.
Ouais, mais les maquillages, l'esprit,
mais
c'est l'univers.
La musique,
je crois que les maquillages ont même eu un Golden Globe.
Tout, la musique
ça.
Est ouf.
La musique est folle.
Est
tout est incroyable.
La playlist est disponible sur les plateformes de streaming. Enfin, c'est fou.
Fou.
Zendaya, elle est mais juste, je ne sais pas quel âge elle doit avoir 22 ans, 23 ans, mais elle joue mais comme une actrice immense. Non, c'est très, très fort. Et les seconds rôles sont super. Et vraiment.
Ouais, c'est vraiment bien.
Yo, c'est Alfie, et promis, après j'arrête juste pour vous conseiller le film d'Eleanor Coste qui s'appelle Fantasme, qui est sorti tout récemment sur sa chaîne YouTube. C'est un film qui parle simplement d'une fille qui s'est fait un fantasme d'un homme et comment elle arrive à s'en remettre. Bref, j'en dis pas plus. Le film est disponible gratuitement sur YouTube et c'est totalement absurde qu'on ait le droit de regarder un film pareil gratuitement sur Internet. Ça n'a strictement aucun sens et je pense qu'il faut soutenir la création comme ça, la création originale, la création gratuite, libre sur Internet. Voilà, Fantasme d'Eleanor Coste. Je voulais juste le conseiller parce que c'est un film vraiment merveilleux et je vous le recommande. Voilà, Fantasme d'Eleanor Coste sur sa chaîne YouTube, c'est génial, c'est vraiment génial.
C'est déjà la fin de cette émission.
Quoi ?
Oui, mais vous repartez avec des cadeaux.
Ah.
Vous repartez chacun avec un abonnement MyCanal. C'est offert.
Ah,
mais ça, oui. C'est vraiment. Eh,
c'est marrant parce que les gens,
cool.
Ça les fait vraiment kiffer.
Non, mais c'est
vraiment
cool. Mais moi, je suis trop contente. Le bureau des légendes que je vais voir depuis je sais pas combien de temps.
Est-ce que je peux prendre le mug quand même ?
Évidemment. Ok, yes. Je vais essayer de te l'envoyer indirectement.
D'accord.
Tu t'enverrai par la poste. Vas-y. Tu veux prendre le mug ? Prends le mug.
Yes.
Il le rendra. Tu l'as pris, tu le poses.
Coupé, maintenant tu le rends.
Mais c'est pas fini, vous avez des cadeaux. Alors, taille.
Des cadeaux M, c'est Christophe Clavier la coupe. Mais c'est pas fini.
C'est formidable. Ah, les cadeaux d'une bonne boutique.com, des cadeaux, des t-shirts, bref. Il y a plein de choses qui vous attendent à la sortie aussi. Merci d'être venu. Merci pour votre confiance. Merci d'être venu.
Bref, c'est quoi ?
Merci beaucoup à vous de nous avoir.
C'est marqué quoi ?
Et de nous avoir réunis parce que ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps, moi je vous ai connu. Et c'est ça qui est cool parce que. On disait tout à l'heure, c'est important de faire, mais si vous n'aviez pas fait Le Visiteur du Futur, bah, je ne vous connaîtrais pas aujourd'hui.
Ouais.
Vous aurez connu avec d'autres choses certainement, mais ça a mis un point zéro dans ma vie en me disant « Ah, ces gens-là sont super
bah, ».
Et ben ça, c'est pour ça qu'il faut faire des projets, faire des choses, parce que c'est comme ça qu'après, mine de rien, maintenant, on a travaillé ensemble.
Bah oui,
tu vois. Et c'est hyper important.
Mais Lolo faisait des trucs avant. Oui. Le futur, elle faisait le journal de Lolo, c'est comme ça que j'ai connu aussi. Alors, c'est grâce à Florent Dorin.
En faisant des choses, ouais.
Et c'est, voilà, donc, ouais. C'est en faisant des choses que tu rencontres d'autres gens qui font des choses.
Exactement.
Exactement.
Être dans l'action.
Être dans l'action. Et je pense que c'est le salut de l'acteur aussi, d'écrire, de l'actrice,
oui.
D'écrire. Parce que c'est très dur de dépendre du désir des autres.
Et c'est horrible.
Ça doit être très,
mais moi,
très dur
respect total à ceux qui sont juste acteurs ou actrices. Hein. Mm-hmm. Respect.
Ouais, ça doit être extrêmement... tu dois être dans un casting, ça doit te dire j'ai intérêt à l'avoir.
Tiens, mon téléphone sonne pas. Je n'ai donc pas de
qu'est-ce
travail.
Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Enfin, t'apprends tes textes, d'accord, mais...
Ouais, c'est vrai.
Tu sais, tu l'as angoissé là.
Mais non, elle fait ses trucs, elle va faire genre Human 3 et tout, ça va être top.
Ouais.
En tout cas, bravo pour votre parcours.
Et
merci d'avoir partagé.
Si on peut financer alors.
Ouais, donner de l'argent.
S'il y a déjà
comment
une cagnotte.
Comment on peut financer ? S'il y a une cagnotte, on va mettre le lien en dessous.
Bah, je sais pas quand on sortira ce que je vais lancer.
Quand il y aura la cagnotte,
si ça sort. Début octobre.
On te compte aussi sur Instagram et tu nous tiendras au courant de toutes tes stories qui tourneront que sur.
Tu mets combien ?
Bah, je sais pas, moi je mets je sais pas.
1000 balles.
Ouais, un petit
1000. Mais 1000.
Mais 1000. Allez, on met 1000 balles. Allez, on met 1000 balles.
C'est combien ?
C'était ça où je voulais. En fait, j'avais 1000 balles, je voulais donner à l'orphelinat.
95, je crois.
Mais.
Attends, ta cagnotte, c'est 95 ?
Non. 20 000, je vais mettre. Parce qu'en fait, je savais pas. Je voulais mettre 30 000, mais si tu ne les atteins pas, et bah, ça s'annule.
Ah bah oui.
Et je le savais pas,
ça.
Donc, je mets 20 000 en espérant pouvoir pousser plus. Mais je sais pas, ça me paraît tellement énorme. Ça
mais les 20 000,
fou,
comme ça.
Bah, comme ça, c'est
mais
fait.
Je voulais les mettre dans un orphelinat au Congo. Mais
ah,
je
bah
les enlève,
non, on s'en fout.
Oui, je les enlève.
On a plus besoin de genre humaine que d'un orphelinat au Congo.
Mais oui, ils sont... il n'y a pas d'orphelin au Congo.
T'as ta vidéo de présentation de.
Voilà.
Merci à vous d'être venus.
Merci
à
merci
vous, les
merci
gars.
Beaucoup. On vous embrasse très fort. Merci à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous.
Bisous.
Et à très bientôt pour un bon moment.
Parfait, ça.
Ah, j'ai un dernier mot. Mathieu Chessou qui fait le tour du monde en montgolfière.
Pourquoi en montgolfière, je sais pas, mais Mathieu Chessou, c'est fort. Mais c'est des personnages que mon père invente.
Ah, d'accord.
Ça n'existe pas. Mathieu Chessou n'a jamais existé.
C'est bizarre, tu dois être devenu artiste quand même, c'est bizarre.
Ah. Hein.
C'est juste mon père qui inventait des personnages.
Allez, à bientôt, à la semaine prochaine.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.